18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je suis enchanté de vous retrouver pour 2 heures d'information avec du sport. La finale du top 14 ce soir, la planche apéro avec Guy Martin, le chef triplement étoilé du Grand Véfour, et des dossiers. Le ministère de l'Intérieur a ouvert une plateforme en ligne pour collecter les soutiens au premier référendum d'initiative partagée de l'histoire. L'objet, faire capoter la privatisation annoncée d'ADP Aéroport de Paris. Il faut pas moins de 4,7 millions de signatures, sauf que depuis l'ouverture du site web, les critiques pleuvent. Raquel Garrido, avocate, ex-porte-parole de la France Insoumise, est furieuse. Elle parle de honte et d'entrave à la démocratie. Elle sera avec nous. Une fois n'est pas coutume, ensuite, une séquence corporette avec deux Olivier de la maison Europe 1. Olivier Pouls, notre bon vivant spécialiste du vin, qui nous dira comment les champagnes français ont été surclassés à l'aveugle par du mousseux belge. Et en plus, il est belge. Et puis en page média, Olivier Delacroix, que vous pouvez entendre tous les après-midi de 15 à 16 heures, qui repart pour une nouvelle saison sur France 2 de son émission Dans les yeux d'Olivier. Enfin, notre fameuse demi-heure culture à 19h30 avec Philippe Manœuvre pour un concert de 1000 guitares qui vont jouer des Rolling Stones. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Je me calme. Bonsoir Marlène.
Bravo Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à réagir à l'actu de ce samedi 15 juin avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 18h. Bon week-end à tous. Le journal sur Europe 1, Anne-Laure Jumet, Philippe Andel.
Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Philippe.
Au sommaire de votre journal ce soir.
Eh bien cette messe qui est sur le point de commencer à Notre-Dame, un office pour une trentaine de personnes seulement, mais qui résonne particulièrement 2 mois après l'incendie de la cathédrale. Nous serons sur place au début de ce journal. Toulouse, fan de Johnny, une esplanade au nom du chanteur a été inaugurée tout à l'heure en présence de sa femme et de ses filles. Correspondance à suivre. Et puis, une vague orange à Valenciennes. Les supporters néerlandais ont déferlé sur la ville pour le match Pays-Bas-Cameroun dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de football. Et ils ne sont pas venus pour rien.
Europe 1.
Une messe qui s'apprête à débuter à Notre-Dame 2 mois après l'incendie qui avait ému le monde entier.
Une messe en comité très restreint dans l'une des chapelles de la cathédrale pour célébrer la fête de la dédicace qui commémore la consécration de l'autel de Notre-Dame. On vous retrouve en direct, Justin Morin, non loin du parvis de Notre-Dame. Une cérémonie qui revêt donc une atmosphère toute particulière.
Ah oui, et les premières images sont vraiment impressionnantes. D'abord, les 3 trous béants dans la voûte, 3 trous qui donnent sur le ciel. Les poutres de bois calciné jonchent encore le sol de la nef. Et Monseigneur au Petit qui vient d'entrer dans la cathédrale, Monseigneur au Petit, archevêque de Paris, vêtu de son vêtement liturgique blanc et d'un casque de chantier lui aussi blanc. À ses côtés pour cette première cérémonie depuis l'incendie, une trentaine de participants, des prêtres, des salariés du diocèse, des bénévoles de la Fondation Notre-Dame et quelques ouvriers du chantier, eux aussi tous coiffés d'un casque de chantier pour des raisons de sécurité. Vous parliez de l'autel de Notre-Dame. En fait, la cérémonie se déroule juste derrière, dans la chapelle axiale, derrière l'immense croix dorée restée miraculeusement debout. Aucun fidèle donc, seulement 2 journalistes et quelques techniciens de la chaîne KTO TV qui retransmet la cérémonie en direct. C'est dire vraiment la confidentialité de cette messe, mais l'archevêque de Paris y tenait absolument. Il faut montrer que Notre-Dame est bien vivante, a-t-il dit. On imagine beaucoup d'émotions pour lui et pour Karine Dalle, chargée de sa communication. Elle aussi assiste à cette messe sous haute sécurité.
Si aujourd'hui on a le droit de rentrer dans cette cathédrale, c'est parce que l'endroit où va se dérouler la messe est un lieu qui est sûr, sinon tout simplement on n'irait pas. On a tous envie de sortir vivant de cette messe, vivant et heureux. C'est absolument pas un lieu de désolation, c'est un lieu d'espérance.
Un lieu d'espérance vivant et avant tout une église selon elle et non un musée. C'est aussi le message de cette messe qui vient donc de débuter. Elle devrait durer 1 heure. Première étape, premier symbole du long processus de reconstruction de Notre-Dame.
Merci Justin Morin en direct du quartier de Notre-Dame. La cathédrale qui fait toujours l'objet de travaux de sécurisation. La construction proprement dite, la reconstruction débutera elle dans plusieurs mois. Elle doit être réalisée en 5 ans, c'est ce qu'avait affirmé Emmanuel Macron. Mais ce matin sur Europe 1, le ministre de la Culture, Franck Riester, a été beaucoup moins affirmatif.
On souhaite que cette restauration soit exemplaire. On ne veut absolument pas confondre vitesse et précipitation. Le président de la République a eu raison de donner un objectif, une ambition. Ça ne veut pas dire qu'à 5 ans pile, nous aurons forcément les travaux de fini dans leur intégralité. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura des travaux de restauration extérieur et des abords qui finiront après. Ce qui compte, in fine, c'est qu'à bon rythme, on puisse restaurer Notre-Dame de Paris pour la rendre la plus rapidement possible aux fidèles, aux touristes et aux parisiennes et aux parisiens.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, au micro ce matin de Bernard Poirette. Le parvis de Notre-Dame devrait lui rouvrir partiellement dans quelques jours. Un espace sera réservé aux fidèles pour qu'ils puissent se recueillir.
Toulouse a rendu un hommage à Johnny Hallyday cet après-midi en présence de la femme et des filles du chanteur.
Laetitia, Jade et Joy avaient fait le déplacement de Los Angeles pour inaugurer une place au nom du chanteur. L'esplanade située devant le Zénith où Johnny a donné de nombreux concerts. La voix étranglée par l'émotion, la veuve du rocker a remercié les nombreux fans présents et s'est adressée à son mari qui aurait dû fêter aujourd'hui ses 76 ans. Reportage de Patrick Anselmetti sur place.
Oui, des centaines de fans du chanteur disparu étaient cet après-midi sur l'esplanade qui porte désormais le nom Johnny Hallyday devant le Zénith de Toulouse. Et c'est une première en France, initiée par le maire de la ville, Jean-Luc Moudenc. Un hommage qui a ému Laetitia Hallyday. La femme de Johnny était accompagnée par ses deux filles, Jade et Joy.
Monsieur le maire, Jade et Joy et moi-même, nous vous remercions du fond du cœur pour cet hommage. Mon homme est si fier aujourd'hui et je sais qu'il aurait souhaité notre présence. À tous. Il est heureux de la présence de tous ses amis et de ses nombreux bikers qui nous ont entourés depuis l'aéroport pour trouver la force d'arriver jusqu'à vous.
De très nombreux motards ont en effet escorté Laetitia Hallyday et ses filles de l'aéroport au Zénith. Parmi eux, il y avait Pascal. Il était accompagné de sa compagne qu'il a rencontrée grâce à Johnny il y a 10 ans.
On s'est donné rendez-vous ici au Zénith, justement au concert de Johnny Hallyday. C'était notre premier rendez-vous amoureux. On s'était rencontrés une quinzaine de jours juste avant et du coup on a ouvert le bal ici. Quoi. C'est inoubliable pour moi, ça c'est le plus beau jour de ma vie je crois. Un des plus beaux jours de ma vie. Et ça le restera de toute façon tout le temps. Donc en venant ici, ça a un peu rouvert aussi... C'est beau souvenir, quoi.
Vous le voyez, il y avait beaucoup d'émotions cet après-midi à Toulouse. Johnny restera encore longtemps dans le cœur de tous ses fans.
Merci Patrick Anselmetti à Toulouse. Donc pour Europe 1 et invité par la mairie, les grands-enfants de Johnny, David et Laura n'étaient pas présents, mais ils avaient une bonne excuse. Laura Smet se mariait religieusement ce matin à la pointe du Cap Ferret avec l'entrepreneur parisien dont elle partage la vie depuis 5 ans. Mariage auquel assistait son frère, qui l'a même amené à l'hôtel. En bref, la passagère de la voiture qui a fauché 2 enfants à Lorient est incarcérée depuis hier, mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Cette jeune femme de 21 ans risque 7 ans de prison. Le conducteur, lui, est toujours en fuite.
Europe 1.
Dans un instant, le coup de gueule des organisateurs de colonies de vacances contre la SNCF.
Il est 18h08, la suite du journal sur Europe 1, Anne-Laure Jumet, Philippe Vandel.
La SNCF pointée du doigt par les organisateurs de colonies de vacances.
Oui, selon eux, rien n'est fait pour favoriser les voyages de groupe, notamment des groupes d'enfants qui partent en colonies de vacances. Au contraire, on leur complique la vie. Un collectif vient d'adresser en ce sens une lettre à la direction de la compagnie ferroviaire, mais aussi au gouvernement. Louise Fénelon représente l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air.
Aujourd'hui, la SNCF nous met des bâtons dans les roues. Par exemple, si vous, en tant qu'individuel, vous regardez sur le site de la SNCF pour aller à telle destination, j'ai 10 trains différents. Mais si vous voulez demander la même destination pour un groupe, il n'y a que quelques trains qui sont proposés. Les autres sont fermés complètement au groupe. De même, certaines gares ne sont plus accessibles au groupe. Parce qu'effectivement, quand un groupe descend à une gare, le temps d'arrêt d'un train va être un petit peu plus long. 50 enfants qui descendent, 50 bagages à faire descendre, ça va rallonger un petit peu. Donc, faire voyager des enfants, ce n'est pas anodin. On a besoin de certitude que tous les enfants soient placés dans le même wagon, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir un groupe de 50 et on va avoir 10 enfants en voiture 4, puis les derniers dans la voiture 7. C'est un cri d'alerte en disant pourquoi finalement la SNCF s'acharne sur les groupes alors que finalement nos jeunes vacanciers sont les futurs clients de la SNCF.
Des propos recueillis par Jean-Sébastien Soldanini. Eux ne sont pas partis en colonie, mais ils sont bien en vacances. Barack Obama est venu en famille passer une semaine dans le Gard. L'ancien président américain a atterri hier soir à l'aéroport d'Avignon avec Michel et ses deux filles. Son lieu de résidence est tenu secret, mais selon la presse locale, la famille va séjourner dans un somptueux mât du XVIIIe siècle avec piscine située sur l'île de la Barthelasse, entre les deux bras du Rhône. Coût de la location, 55 000 euros la semaine. À Hong Kong, les autorités ont suspendu le projet de loi contesté autorisant les extraditions vers la Chine. La pression de la rue a pesé. La manifestation prévue demain reste toutefois maintenue. Les organisateurs veulent obtenir le retrait pur et simple du texte qu'ils jugent dangereux pour les droits de l'homme.
On part maintenant à Valenciennes où les supporters néerlandais et néerlandaises sont arrivés en masse pour soutenir leur équipe féminine de football.
Les Pays-Bas qui se sont qualifiés tout à l'heure pour les 8e de finale du Mondial face au Cameroun. C'était donc la joie dans les rues. Kevin Tuillier, vous êtes sur place.
Oui, c'est une véritable déferlante orange à Valenciennes. Des boulevards entiers occupés par près de 15 000 Hollandais. Une fan zone transformée en piste de danse. Et pendant le match, tout un stade habillé d'une seule et même couleur. Une fête qui va se prolonger pour Marie après la victoire face au Cameroun.
Oh, C'est toujours une grande fête. Jamais d'incidents, jamais de bagarres ou de personnes qui ont trop bu. Nous sommes tous unis, en orange. Comme nous sommes un petit pays et que nous sommes plutôt forts au football, c'est une manière de le rappeler.
Parmi les supporters, de nombreux enfants, des couples, des femmes seules, dans une ambiance chaleureuse qui ravit ses habitantes de Valenciennes.
Enfin, c'est gai, c'est merveilleux. C'est surtout le orange qui est impressionnant. Depuis que je suis arrivée de chez moi, je ne vois que du orange.
Ça fait du bien parce qu'on est très attaché au football. Et c'est vrai que montrer qu'effectivement il y a du football féminin qui prend la même popularité que celle des garçons, c'est vraiment plus qu'extraordinaire.
Les fans hollandais sont bien décidés à suivre leur équipe nationale pendant toute la Coupe du Monde. Ils sont attendus nombreux jeudi à Reims pour le dernier match de groupe face au Canada.
Merci Kevin Tullier, vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Nord.
Et c'était le journal d'Anne-Laure Jumet. Merci beaucoup Anne-Laure.
Bonne fin de journée avec Europe 1, il est 18h12.
La météo, c'est maintenant et c'est avec vous Valérie Darmon, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
5 départements de l'Est sont toujours en alerte orange orage, c'est
et,
bien ça.
Et oui, l'Ain, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie qui restent en alerte tandis que les orages ont fini de traverser l'Ardèche et le Rhône. Météo France a relevé des rafales à 103 km/h près de Bonneville en Haute-Savoie sous de très fortes précipitations, 30 mm en une heure. Les orages sont en train de se décaler comme prévu progressivement vers l'Est. Le vent pourrait encore atteindre sur les départements orange 80-90 km/h, voire très ponctuellement plus de 100. Et donc, cette situation orageuse prendra fin en début de soirée. La vigilance devrait être levée à 19h.
Bonneville à qui je fais un petit coucou. Et demain, du coup, ça se passe comment?
Alors, plus calme partout, bien ensoleillé au sud, avec des valeurs assez stationnaires, légèrement en hausse sur le nord. Entre 18 à Brest et 30 degrés à Nîmes, à Paris, comme à Lyon, il fera 24.
Merci beaucoup Valérie Darmon, à tout à l'heure.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Christophe Lamarre, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
C'est le direct de la mi-journée, les 24 heures du Mans, la plus grande course d'endurance auto du monde et on file tout de suite dans la Sarthe.
Oui, Toyota va-t-il se succéder à lui-même? Le constructeur japonais est seul en lice dans la catégorie reine des LMP1. Dans les autres catégories, la course s'annonce passionnante et indécise. On retrouve tout de suite Axel May, notre envoyé spécial sur place. Axel, où en sommes-nous? Un peu plus de 3 heures après le départ.
Eh bien, sans surprise Christophe, les deux Toyota sont en tête, hein. C'est la seule marque d'usine avec le soutien financier qui va avec. Vainqueur l'an dernier, les deux Toyota équipés d'un moteur hybride, donc plus puissant que les autres véhicules, visent un nouveau doublé cette année. Le prototype numéro 7 a même battu le record historique du tour, 3 minutes et 17 secondes pour faire un tour de circuit, un peu moins de 16 km. Je vous laisse calculer Christophe la vitesse moyenne ébouriffante de ce prototype. L'autre prototype Toyota, c'est celui conduit actuellement par l'ancien double champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso. Et puis en troisième position, déjà loin derrière la Rébellion Racing, une écurie suisse. Et si je vous en parle, c'est parce que parmi les trois pilotes, il y a le jeune Thomas Laurent qui rejoindra l'an prochain Toyota et qui sera sans doute un prochain vainqueur des 24 heures du Mans. Donc après un peu plus de 3 heures de course, les deux Toyota sont tranquillement en tête, Christophe.
Axel May en direct des 24 heures du Mans.
Et on va passer au Mondial féminin de football. Les Pays-Bas confirment face au Cameroun.
Une victoire 3-1 des Néerlandaises. Viviane Miedema a inscrit un doublé et totalise 60 buts en 77 sélections avec les Pays-Bas. Elle bat le record détenu jusque-là par Manon Mélis, 59 buts en 136 sélections.
Et c'est pas terminé. Les Néerlandais, sont décidément partout, vainqueurs en foot et vainqueurs à vélo.
Et oui, le Néerlandais Wout Poels remporte la 7e étape du Dauphiné, une étape marquée par un orage violent et une pluie battante. Le maillot jaune est sur les épaules du Danois de la formation Astana, Jakob Fuglsang. Il possède 8 secondes d'avance seulement sur son dauphin au classement général, le Britannique Adam Yates.
Cyclisme toujours. Vous avez des nouvelles de Chris Froome.
Oui, photo à l'appui, on le voit souriant sur son lit d'hôpital. Le Britannique poursuit sa convalescence à l'hôpital universitaire de Saint-Étienne, où il a été admis après sa chute grave sur les routes du Dauphiné. Dans un communiqué, le quadruple vainqueur du Tour dit regarder devant lui et vouloir revenir à son meilleur niveau.
C'est le principe quand même en cyclisme, de regarder devant soi. Rugby maintenant,
c'est mieux,
une finale, c'est mieux. Une finale qui fait très très envie. Les deux meilleures formations de la saison se retrouvent ce soir face à face pour le titre.
Et Toulouse et Clermont, les deux premiers de la saison régulière, les deux clubs les plus offensifs aussi en termes de points inscrits et d'essais marqués. Rarement une finale aura été aussi indécise, du moins sur le papier. Mais si le titre est un enjeu majeur pour une club, une ville et une région, il l'est aussi pour les joueurs. À 3 mois de la Coupe du Monde, cette finale est évidemment l'occasion de se montrer. L'arrière toulousain Maxime Médard en est convaincu.
C'est énorme. Enfin, franchement, de les jouer, ça ne va pas forcément jouer sur l'après... finale, mais en tout cas, je pense que tout joueur qui souhaite partir à la Coupe du Monde a envie de faire une grosse finale demain. Donc voilà, on a tous des duels à jouer. Moi, j'ai Penaud en face qui est peut-être le meilleur aujourd'hui à ce poste-là. Donc voilà, je vais m'accrocher en tout cas.
Maxime Médard avec Simon Rubin.
Christophe, le reste de l'actu sportive en bref.
Rien n'arrête Félix Auger-Aliassime. Le Canadien est en finale du tournoi de sur gazon de Stuttgart. Une qualification sans jouer puisque son adversaire Milos Raonic a déclaré forfait en demi-finale. Félix Auger-Aliassime tentera de décrocher son premier titre sur le circuit face à l'Italien Matteo Berrettini. On verra tout ça demain soir.
À fond la caisse, c'était le journal des sports de Christophe Lamarre. À tout à l'heure, Christophe. À suivre, ma prochaine invitée n'a jamais mâché ses mots. Avocate, militante, vite repérée pour son franc-parler qu'elle a mis au service de la France insoumise, sa dernière pique s'adresse au site gouvernemental défaillant pour recueillir les signatures contre la privatisation d'ADP. Sur Twitter, elle dénonce une entrave à la démocratie. Qu'entend-elle par là ? Raquel Garrido est avec nous dans un instant.
Votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h sur Europe 1 et maintenant à 18h19. Mais on va parler politique avec votre premier invité, Philippe Bourdelle.
Et avec une première en France, avant-hier, le ministère de l'Intérieur a ouvert une plateforme en ligne pour collecter les soutiens au premier référendum d'initiative partagée de l'histoire. L'objet, retoquer la privatisation annoncée d'ADP Aéroports de Paris grâce à une loi qui affirmerait son caractère de service public national des aéroports. Il faut d'abord l'accord de 10% du corps électoral, c'est un peu technique mais vous allez voir que c'est le cœur du sujet, soit 4 700 000 signatures. Sauf que, depuis l'ouverture du site web, les critiques pleuvent. Bonsoir Raquel Garrido.
Bonsoir Philippe Vandel.
Vous êtes avocate, ex-chroniqueuse de l'émission Les Terriens du Dimanche et ex-porte-parole de la France Insoumise. Et vous êtes par ailleurs très active sur les réseaux sociaux et vous ne manquez pas de manifester là votre désapprobation, voire votre colère sur ce sujet. Vous parlez de honte et d'entrave à la démocratie. Concrètement, qu'avez-vous à redire dans la manière dont sont collectées les signatures ?
Le site du ministère de l'Intérieur, donc referendum.intérieur.fr, est un site parsemé d'embûches parfaitement inutiles et qui conduit au fait que des milliers de citoyens n'arrivent toujours pas à manifester leur volonté que soit organisé un référendum pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris.
Par exemple, exemple d'embûches inutiles.
Par exemple, moi je suis née dans une commune de l'étranger, je suis née au Chili. Eh bien, le site me demande le code INSEE de ma commune de naissance, Valparaiso.
Ouais.
Bon, c'est compliqué, comment je fais avec ça ? Donc ça bloque. Il y a tout un tas d'embûches. On demande aux gens de mettre des majuscules ou des minuscules aux bons endroits. Mais en fait, pourquoi ? En quoi est-ce que la vérification de votre présence sur les listes électorales est déterminée par le fait que vous ayez écrit votre nom et prénom avec des majuscules ou des minuscules, en fait. On s'en fiche complètement.
C'est pour qu'il n'y ait pas de fraude, ou est-ce que je me trompe ?
En quoi ? Justement, alors moi je suis parfaitement d'accord pour qu'on lutte contre des éventuelles erreurs ou des fraudes, mais en quoi est-ce que si j'écris Philippe Vandel et je mets par mégarde un P minuscule à la place d'un P majuscule, en quoi est-ce que ça fraude votre présence sur la liste électorale ? En rien. En revanche, ça vous empêche d'accéder à la phase finale de validation de votre clic de soutien pour ce référendum.
Alors, le site ne retrouve pas certaines personnes sur les listes électorales, alors que même qu'ils ont voté il y a 2 semaines aux européennes, il y a un message d'erreur qui dit « Nous ne sommes pas parvenus à vous retrouver sur la liste électorale, vous ne pouvez donc pas soutenir cette initiative référendaire. » Et là, c'est pas fini, il y a une nouvelle page de réclamation disponible avec un formulaire à remplir, sauf que là, le formulaire n'accepte pas les accents. Donc, il ne faut pas s'appeler Bénédicte ou Gérard ou René parce qu'on ne peut pas s'inscrire. Ma question est la suivante, est-ce que vous voyez là une malice de l'exécutif ou est-ce que c'est simplement un programme mal conçu ?
Je crois qu'il y a entrave. En effet, je pense que le bon terme, c'est que le gouvernement veut entraver l'accès des citoyens à cette disposition constitutionnelle nouvelle, hein, qui est un nouveau pouvoir démocratique. Parce qu'il faut bien comprendre que nous, les citoyens, nous sommes convoqués en général pour voter sur des noms.
Ouais.
Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la démocratie représentative, c'est-à-dire on a des listes de noms et on doit choisir des noms.
Ouais.
Alors là, on a pour une fois la possibilité de voter, éventuellement, si on y arrive, sur un sujet.
Ouais.
Donc on exprime directement notre souveraineté. Il y a quelque chose de là de très enthousiasmant, mais évidemment, ça contredit les aspirations et les projets de l'exécutif. Donc il veut mettre des bâtons dans les roues et il a trouvé cet argument technique pour entraver notre accès à ce référendum sur l'aéroport de Paris.
Alors pardon, je reprends un grand mot, je veux bien croire à la théorie du complot, mais vous connaissez l'adage, on dit qu'il n'y a pas de secret qui ne soit détenu par plus de 10 personnes. Parmi tous les gens qui travaillent sur l'informatique gouvernementale, il y en a bien qui ferait partie du PC, du PS, des Républicains, du Rassemblement National ou de la France Insoumise. Ils ne sont pas tous mis d'accord pour essayer de nous berner ou nous envoyer sur des fausses pistes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je me garderais bien de jeter la pierre aux personnes qui sont employées par le ministère de l'Intérieur ou le Conseil constitutionnel ou les services concernés. Parce que vous savez, il y a une question qui s'appelle la subordination, la discipline, il y a des consignes. Moi, ce que je constate surtout...
Il y a des fuites, parfois, il y a le canard enchaîné.
Ce que je constate,
qui bosse une administration, il dit voilà les ordres que j'ai reçus.
Eh bien, n'hésitez pas à témoigner. Alors, Philippe Vandel fait un appel à témoignage, je le relais volontiers. Ce que je constate surtout et qui pose question, qui doit tous nous poser question, c'est que vous avez en France désormais un secrétariat général à la modernisation et la simplification. Vous avez, comme moi, constaté que dans tout un tas de domaines de votre vie quotidienne, des nouveaux sites ont été proposés, pondus, qui sont, il faut dire, très ergonomiques hein, pour payer votre amende, vos impôts, etc. Il y a eu des grandes évolutions, ça il faut le reconnaître, très récentes en France sur ce point. Et comment se fait-il que sur l'évolution démocratique, celle qui, au final, va peut-être retirer un peu de pouvoir à la monarchie présidentielle, au monarque, à l'exécutif, voire un peu à l'Assemblée, non, on se retrouve sur des vieux sites pas du tout ergonomiques où il a fallu rajouter des obstacles parce que, y compris du point de vue du codage, si vous donnez la consigne au site, eh bien refusez toute inscription qui ne soit pas inscrite. Par exemple, respecter la casse, en majuscule minuscule, c'est une consigne qu'il faut donner au site. Donc c'est plus compliqué pour le codage, c'est plus de travail, c'est pas moins de travail. Là, ils ont fait du travail pour nous rendre difficile l'accès à cet outil démocratique.
Je voudrais parler du fond, je voudrais avoir votre avis sur un sujet pour lequel je vais vous dire, je suis des deux avis. Il y a beaucoup d'internautes qui sont émus que la liste des signataires pourrait être rendue publique et disent que ça peut marquer un frein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
D'abord, je regrette qu'il n'y ait pas de comptage, de compteur.
Alors, on n'ait pas parlé de ça aussi.
Oui, parce qu'en fait, ça, c'est un peu le même sujet. Parce que le fait que les noms soient publiés permettra, lorsque ce sera le cas, éventuellement, de compter combien il y a de signatures et de savoir où on en est.
Je vous interromps. Si on regarde le Téléthon, pardon de cet exemple trivial, on peut voir la somme, on n'a pas besoin de savoir qui sont les donateurs. On pourrait avoir le nombre de personnes qui ont voté sans avoir leur nom.
Absolument.
Mais déjà, il n'y a pas de compteur,
absolument.
Dites-vous.
Donc, justement,
ce qui est assez étrange pour une opération dont on voudrait avoir le nombre.
C'est même démobilisateur, il faut le dire. On doit recueillir 4,7 millions de signatures. On a compté, c'est 17 000 par jour. 17 000 par jour. J'arrête pas d'entendre que 9 mois, c'est long, 9 mois, c'est court, quand il y a au milieu en plus les vacances d'été, pour recueillir 17 000 signatures par jour. Donc, le point de référence de savoir à combien on en est, c'est très important. Alors, on me dit, le gouvernement répond, mais ce n'est pas prévu dans la loi qu'il y ait un compteur. Ah bon, mais c'était prévu dans la loi qu'il fallait respecter la casse, majuscule, minuscule, pour le site ? Non. Alors voilà, ils peuvent tout à fait aider à ce que cette mobilisation se fasse, à ce que le débat national ait lieu sur l'opportunité ou non d'un référendum. Au fond, on pourrait même aller jusqu'à l'idée d'un financement public, d'une campagne publique, où les partisans du « oui, faut signer », du « non, faut pas signer », s'affronteraient avec des temps de parole audiovisuelles, etc.
Nous sommes dans un moment... Que le gouvernement finance une loi qui mettrait en déroute, en bataille, sa propre loi précédemment envisagée.
Parce que évidemment, c'est un outil démocratique constitutionnel qui a été activé. Ils n'ont pas d'autre choix, avec l'outil de l'État qui ne leur appartient pas, qui nous appartient à tous, de le mettre en œuvre.
Vous ne m'avez pas répondu sur l'anonymat.
Oui, alors sur l'anonymat, je comprends que ce soit un frein pour certains de nos compatriotes.
Mais est-ce que nos noms, enfin, les noms de ceux qui ont voté, vont sortir ?
Normalement, oui. Au bout de 5 jours,
mais
votre nom...
Mais est-ce que ce n'est pas antidémocratique, puisque le vote est secret en France ?
Alors, il ne s'agit pas d'un vote. Il s'agit d'un appel à ce qu'on organise un vote. Donc, à ce stade, quelqu'un, par exemple, qui serait partisan de la privatisation, un partisan de la privatisation. Moi, je suis contre la privatisation d'Aéroport de Paris. Mais admettons que cas d'école, Philippe Vandel, vous êtes pour la privatisation.
D'accord.
Mais vous admettez que cette décision ne doit pas être confinée
à un cercle restreint. J'ai compris. Mon nom n'apparaît. Eh bien, simplement, je souhaite qu'il y ait un référendum sur le sujet.
Voilà. Donc, en fait, ça n'engage pas au fond.
Mais
voyez,
ça ne préjuge pas de mon vote.
Ça dit juste que vous êtes pour une certaine forme de démocratie qui soit une démocratie plus impliquante, plus directe pour les citoyens.
Un petit mot de politique. Les signataires du projet de loi référendaire vont de droite à gauche. Ça va des Républicains à la France Insoumise, en passant par l'Assemblée nationale, le PC, le PS, les Verts, le mouvement Génération de Benoît Hamon. Et alors, à gauche, tous les partis appellent au rassemblement, sauf si j'en crois le journal Le Monde.
L'Union ripe sur le référendum, les partis de gauche peinent à s'entendre sur une campagne commune. Qu'en dites-vous ?
Mais le monde est obsédé par la question de l'union, de la division de la gauche. C'est un hors-sujet total. On est dans la configuration ici, qui est la configuration en fait, de la commission d'enquête Benalla, où tous les groupes parlementaires, d'où qu'ils viennent, étaient d'accord pour provoquer ce référendum. Et même ça, aujourd'hui, est un cadre qui est largement dépassé, puisque je constate, par exemple, aujourd'hui, que vous avez des groupements citoyens qui se battent pour ce référendum. J'ai vu un site signon.fr, signon au pluriel, .fr, qui met en place son propre site pour aider chaque citoyen à signer. Donc, même les partis, même le Parlement est totalement débordé et c'est une très bonne chose.
Merci beaucoup Raquel Garrido. Je rappelle que vous êtes avocate, chroniqueuse et ex-porte-parole de la France Insoumise.
Europe 1.
Et maintenant, on va faire plaisir à Marlène, on va parler de vin. Alors que Donald Trump... Non, on douche pas la bouteille. Alors que Trump a une fois de plus menacé ces derniers jours de taxer le vin français, sommes-nous toujours indétrônables dans ce secteur? Il y a quelques semaines, le meilleur vin mousseux au monde a été attribué à une production belge et à la stupeur générale, ils ont battu les meilleurs champagnes. On en parle dans un instant avec le dégustateur Olivier Pouls, qu'on connaît bien ici à Europe 1. Faites péter les bouchons.
Écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Philippe Vandel, il est 18h31.
Et c'est l'heure du rappel des titres avec Rémi Bossaron. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Pour la première fois depuis l'incendie qui avait en partie ravagé Notre-Dame il y a deux mois, une messe est donnée en ce moment dans la cathédrale. Elle est célébrée par l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, mais pour des raisons de sécurité, aucun fidèle n'est présent. Journée d'hommage un peu partout en France. Pour Johnny Hallyday, il aurait eu 76 ans aujourd'hui. Une esplanade, Johnny Hallyday, a notamment été inaugurée à Toulouse en présence de Laetitia Hallyday. Barack Obama est arrivé en France. L'ancien président américain va passer une semaine de vacances avec sa famille dans le Gard, à Villeneuve-les-Avignon, face à la Cité des Papes. Pékin soutient l'exécutif hongkongais après l'annonce ce matin de la suspension du projet de loi qui devait rendre possible des extraditions vers la Chine. Une suspension qui n'a pas fait cesser la contestation. La nouvelle manifestation prévue demain est maintenue. Les opposants demandent le retrait de ce projet de loi. C'était un personnage majeur de la culture italienne. Franco Zeffirelli est décédé à l'âge de 96 ans. Il laisse une œuvre très riche au théâtre, à l'opéra, mais aussi au cinéma, avec notamment le film Roméo et Juliette, récompensé par deux Oscars. Toulouse face à Clermont, c'est la finale du top 14, ce soir à 20h45 au Stade de France, à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Le mondial féminin de football, la victoire du Pays-Bas, des Pays-Bas face au Cameroun, 3-1 cet après-midi. Ce soir, le Canada affronte la Nouvelle-Zélande à 21h. La 7e étape du Dauphiné libéré, victoire du Belge Pouls à la station des 7 Lopipé dans les Alpes. Le Danois Fugelsang prend le maillot jaune. Et puis les 24 heures du Mans, ça a commencé à 15h et les favorites, les Toyota, sont déjà en tête.
Merci beaucoup Rémi, à tout à l'heure pour votre journal complet, il sera 19h.
Europe 1.
La météo, c'est maintenant avec vous Valérie Darmon. Quel temps demain après les orages ?
Mieux, de la Bretagne aux Côtes de la Manche jusqu'aux Hauts-de-France. Vous passez la journée sous un ciel chargé avec quelques averses dans l'après-midi. Pas de pluie de la Vendée à la Lorraine en passant par le bassin parisien et des Charentes à l'Auvergne. Là, vous profitez d'un ciel variable, alternant soleil le matin et plus de nuages l'après-midi. Du Jura au nord des Alpes, risque d'averses orageuses toujours, mais seulement en deuxième partie de journée. Rien à voir avec aujourd'hui. D'ailleurs, toutes les vigilances viennent d'être levées par Météo France. Ah. Et de l'Aquitaine aux régions méditerranéennes, vous passez la journée sous le soleil. Avec un petit peu de Mistral et de la Tramontagne en Roussillon, Basse-Vallée du Rhône et en Provence. Et les températures sont agréables.
J'aime ce mot agréable. Merci beaucoup Valérie Darmon.
Et maintenant Philippe Vandel, on va se faire plaisir sur Europe 1.
Un vin belge élu meilleur mousseux du monde pour la première fois devant les champagnes français. Bonsoir Olivier Pouls.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes dégustateur, rédacteur-chef adjoint de la Revue du Vin de France, chroniqueur à la table des bons vivants avec l'ami Laurent Mariotte. Et on va revenir sur cette actualité tombée ce mois-ci et qui nous a laissé pantois. Le concours mondial des vins, compétition internationale, au cours de laquelle plus de 9000 vins ont été présentés par des producteurs, a été remporté par un Belge qui a gagné le prix de la révélation internationale. J'ai oublié de dire que vous êtes vous-même Belge.
Absolument.
Est-ce que cette nouvelle vous a surpris ? Parce que ça a surpris tout le monde, y compris les membres du jury et le producteur belge lui-même.
Alors oui, évidemment, c'est un petit côté surprenant. Maintenant, je ne veux pas dévaloriser, mais relativiser cette jolie victoire. Il faut savoir que c'est un concours qui est un concours ouvert uniquement à ceux qui candidatent et que donc dans ce concours ne figuraient pas en réalité toutes les plus grandes et prestigieuses maisons de champagne. Donc, bien sûr qu'il a gagné face à des maisons de champagne qui s'étaient inscrites au concours, mais on n'était pas allé chercher non plus l'élite absolue. Cela dit, c'est une belle prestation, une belle performance.
Alors, c'est une exploitation qui est basée à Quévy, près de Mons, c'est proche de la frontière franco-belge, qui a remporté ce prix. C'est un blanc de blanc cuvée Prestige 2014, vous le connaissez ?
Oui, je le connais. Je connais quelques vins effectivement effervescents belges. Et il y a notamment la cuvée Rufus qui aussi s'était distinguée il y a quelques années. C'est vrai que les progrès sont assez surprenants. C'est dû en partie, bien sûr, à ce qu'on appelle le réchauffement climatique. On est capable aujourd'hui, dans ces régions belges très au nord, de faire mûrir des raisins, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Puis c'est aussi les progrès de la viticulture, de la connaissance, de la technique. Il faut savoir que ces gens s'entourent aussi de professionnels qui sont très bien formés. Bon, il faut aussi savoir que ça reste encore très artisanal. Ce sont des toutes petites productions par rapport à ce que sont nos grandes maisons de champagne.
Qu'est-ce que vous appelez une petite production ? 100 000 bouteilles, j'ai lu, c'est beaucoup, c'est peu ?
Non, c'est très peu. Enfin, ça fait un petit peu de volume. Enfin, il faut savoir qu'une maison de champagne de taille raisonnable, elle produit entre 1 et 2 millions de bouteilles. Et on parle 4, 5, 6, 7 millions de bouteilles pour les plus grosses. Donc, on n'est vraiment pas sur le même registre de production.
Mais je vous vois sourire en tant que compatriote. Il est comment le vin belge ? Est-ce que c'est un peu comme le vin de Montmartre ? Il est aussi bon à boire qu'à décaper les volets ?
Ah non, pas du tout. Je vous assure qu'il y a des vins qui sont absolument délicieux. On trouve, alors c'est plutôt des cépages effectivement de type nordiste. Hein. Ouais. On trouve un peu de pinot noir, on trouve du chardonnay, on trouve un peu de gamay. Il y a des choses tout à fait surprenantes. Alors, on n'est pas, une fois encore, on ne peut pas se comparer probablement à ce que sont les toutes grandes références françaises. Enfin, ça fait la blague.
Mais là, en l'occurrence, ils ont été aidés par des Français.
Oui, mais bon, vous savez, aujourd'hui, dans les écoles d'œnologie en France, il y a toutes les nationalités qui viennent. Donc,
non, mais c'est ce qu'on appelle la méthode champenoise.
C'est tout à fait la méthode champenoise, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas droit à l'appellation champagne parce que ce n'est pas produit en Champagne, mais le processus de vinification est radicalement le même.
Qu'est-ce que ça vaut, le vin et le champagne anglais ?
Ben là aussi, il y a des choses, il n'y a pas que du bon, mais il y a quelques maisons qui travaillent sérieusement. Et c'est tellement
il y a même
pris
des maisons françaises.
Alors voilà, c'est tellement pris au sérieux par les Français que vous avez une maison comme Tettinger, par exemple, grande maison de champagne française, qui a acheté quelques hectares là-bas dans l'idée de produire dans les années qui viennent un vin effervescent. Et Paul-François Vranken aussi, je crois, belge mais installé en Champagne, a investi en Angleterre.
Mais alors expliquez-moi ce qui me frappe, moi c'est le climat. Je croyais, qu'il était quasiment impossible de produire du bon vin au-delà d'une certaine latitude.
Mais le réchauffement climatique, c'est une réalité.
C'est à ce point.
Et alors, mais évidemment, parce que si on était un peu cynique, c'est vrai que le réchauffement climatique, pour la viticulture, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle depuis 20 ou 30 ans, dans le sens où on récolte des raisins plus mûrs, on a plus de grands millésimes, on a une succession de grands millésimes qu'on n'a jamais connus auparavant. C'est dans les années 70-80, quand on récoltait des raisins à 11-11,5, on était très très content, on chaptalisait pour atteindre les 12-12,5.
Chaptaliser,
c'est rajouter du sucre. Chose que l'on ne fait plus du tout maintenant. On a même le problème inverse, c'est de gérer le trop d'alcool.
C'est pas vrai.
On a des potentiels aujourd'hui, on récolte en Bourgogne, à Bordeaux, ailleurs, des vins qui dépassent les 13-13,5, 14, parfois 15 degrés, on ne sait plus quoi faire de l'alcool. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est la surmaturité. Donc, le réchauffement amène à cette gestion compliquée des sucres et de l'alcool.
Vous voulez dire que le champagne qu'on a connu, on risque de plus pouvoir le produire à cause d'un excès de soleil sur la région de Champagne et de la Marne ?
Alors, on n'y est pas encore tout de suite. Hein. Il va falloir que ça continue. Mais si ça continue à chauffer très fortement, il n'est pas impossible que dans certaines régions, la forte chaleur combinée à la sécheresse fasse que la vigne ne sera malheureusement plus adaptée. Donc, il faudra remonter vers le nord. Alors, d'ici à ce qu'on boive des vins suédois ou du nord de la Hollande, on n'y est peut-être pas encore. Mais c'est vrai que le réchauffement climatique se mesure dans le vignoble. On récolte de plus en plus tôt, on a des maturités de plus en plus élevées, des degrés de sucre de plus en plus élevés. Donc il y a une conséquence qui est absolument indiscutable.
Merci beaucoup Olivier Poulx. Je rappelle que vous êtes dégustateur, rédacteur en chef adjoint de la Revue du Vin de France. Évidemment, on vous connaît comme chroniqueur chez Laurent Mariotte à la table des bons vivants. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Europe 1.
À suivre, lui aussi s'appelle Olivier, lui aussi vous le connaissez bien tous les jours sur Europe 1, c'est l'oreille à l'écoute de vos expériences de vie. Olivier Delacroix qui fait une double déclaration d'amour aux femmes, en livre et en documentaire à la télé, c'est mon invité média dans un instant.
18h41, la suite de votre grand journal du soir avec notre page média Philippe Vandel.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Philippe.
Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien désormais. Vous présentez du lundi au vendredi l'émission de témoignages Partageons nos expériences de vie. C'est de 15h à 16h. Mais là, on va surtout parler télévision. Votre émission Dans les yeux d'Olivier revient pour une 8e saison sur France 2. Après les erreurs de jeunesse, après les crimes conjugaux. Nouvel épisode cette semaine. Violences sexuelles au travail, elles ont osé porter plainte. Ce sera diffusé mercredi sur la 2 à 22h35. Ça débute par un constat chiffré en France. Une femme sur cinq dit avoir été victime de harcèlement sexuel au travail, c'est considérable. D'après une enquête IFOP, une sur trois dénonce son agresseur, mais seulement une sur 100 se lance dans des poursuites. Et ce sont elles que vous avez fait parler, Hélène, Laurence et Amandine, des femmes qui ont osé porter plainte. Ou alors je me trompe, elles ont dû être encore plus difficiles que d'habitude à faire témoigner.
Oui, on a pas mal travaillé pour les renforcer dans la démarche qui était la leur de témoigner. Maintenant, lorsqu'on décide de témoigner, c'est qu'on a envie de faire passer un message, on a envie aussi de déposer certaines choses, de se délester quelque part. C'est comme si on allait le temps de 3 jours se raconter et puis laisser là quelque chose, comme si on refermait une porte. Mais ces 3 jours ont été avec chacune très intenses parce que c'était une manière pour elle, encore une fois, de dénoncer l'attitude de certains hommes qui... de par leur pouvoir, franchissent très vite des limites. Et comme vous le disiez, c'est totalement insupportable de penser qu'aujourd'hui, en France, on a encore des hommes qui puissent penser comme ça.
Mais est-ce que le mouvement MeToo a fait changer les mentalités? Est-ce que la parole s'est vraiment libérée de ce que vous avez ressenti?
Je pense que oui. Je pense qu'elle s'est libérée chez certaines femmes qui n'auraient pas passé le pas. Or, MeToo, avec Twitter... C'est quelque chose qui était accessible tout à coup pour tout un tas de femmes. Et je pense que aussi celles qui sont à l'initiative de ce mouvement cristallisaient bien cet état d'esprit nouveau qui est celui de certaines femmes qui en entraînent d'autres.
Alors il faut le dire, les procès dont vous parlez, plutôt ces femmes qui ont fait des procès, les procès eux-mêmes étaient antérieurs à MeToo. On va entendre le témoignage d'Hélène. Elle doit faire face à un patron harceleur pendant son stage. Et un jour, dans une chambre d'hôtel, ils sont en voyage d'affaires en Allemagne. Il est très, très entreprenant. Elle crie, elle arrive à le faire fuir, à quitter sa chambre. Et depuis, tout a changé. Extrait.
Comment est-ce que vous gérez cette période-là, ces 6 derniers mois?
Bizarrement, je subis moins d'un point de vue harcèlement et attouchement, mais mentalement, c'est plus dur. Vu qu'à chaque fois que je dis non, à chaque fois que je résiste, à chaque fois que j'esquive, je suis punie. Le harcèlement sexuel s'est transformé au final en harcèlement moral à ce moment-là.
D'accord.
D'une manière ou d'une autre, il arrivait à m'atteindre. J'aurais préféré qu'il me tabasse, j'aurais préféré qu'il me cogne, plutôt qu'ils me disent tout ce qu'il m'a dit en un an.
Et alors je vous dis, ce témoignage prend vraiment aux tripes. Je préférais qu'il me cogne, je préférais qu'il me tabasse. Je précise qu'Hélène n'a pas été violée, juste des attouchements plus ou moins appuyés. Mais ça génère une tension intérieure totalement dingue.
Mais oui, parce que c'est la répétition. C'est à chaque instant, plusieurs fois dans la journée. En fait, imaginez-vous être sous la coupe, vous Philippe, d'un patron qui vient... toutes les heures ou toutes les demi-heures, ou voire même toutes les 10 minutes, vous harceler, vous dire des choses en liaison en plus avec une partie de votre intimité.
On ne se l'imagine pas parce qu'on a un garçon, en tout cas là je parle pour moi.
Ouais.
Pour qui ne connaît pas votre émission, vous dites, Olivier Delacroix, que vous voulez faire intervenir des gens qu'on n'entend jamais, des invisibles, c'est-à-dire?
Mais c'est-à-dire toutes ces personnes que l'on n'entend jamais et qui nous ressemblent finalement, qui représentent toutes celles et tous ceux que l'on ne voit jamais, que l'on n'entend jamais et qui traversent cette vie sans qu'on puisse les entendre. Donc à un moment, je leur ouvre ce micro, l'image, et puis je les laisse se raconter, je les accompagne. Et je crois d'ailleurs que vous souligniez tout à l'heure qu'on était à la 8e saison, je crois ouais. Que les téléspectateurs ne s'y sont pas trompés, ils se reconnaissent dans ce type d'histoire.
Et ça marche toujours, c'est pour ça qu'il y a toujours une nouvelle saison. Alors vous avez une grosse équipe, si j'ai bien suivi, vous avez des cadreurs, des monteurs, des ingénieurs du son, et vous le dites vous-même, des journalistes enquêtrices. Pourquoi
oui.
Des femmes à ce poste?
Parce que la complémentarité avec les femmes est quelque chose qui a toujours fonctionné, avec les hommes aussi bien évidemment, mais
vous
il y a...
Pour vous ?
Pour moi, en tant qu'employeur, je ne risquerai pas à parler pour les autres, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui a toujours fonctionné. Et puis, dans les yeux d'Olivier, rassemble 70% d'un auditoire féminin.
Ouais.
Peut-être que ça a guidé mes choix dans le choix de mes collaboratrices.
Alors vous êtes une exception notable dans le métier, Olivier, puisque dans presque toutes les émissions de témoignages, Sophie Davant, Faustine Bollard, Mireille Dumas, et sur les radios La Nuit depuis Macha Béranger, ce sont des filles. Comment vous l'expliquez ? Tiens, je vais poser la question différemment. Pourquoi vous n'êtes pas une fille ?
Mais qui vous dit que je ne suis pas une fille? Non, je pense que je me suis construit avec des femmes. Je me suis beaucoup inspiré des femmes. Et ben voilà, c'est un mélange de féminité avec mon côté masculin. Et je pense que ça donne le résultat qui est celui d'aujourd'hui.
Vous croyez à la fameuse part de féminité dont on nous rebat les oreilles depuis les années 80 ou est-ce que c'est un cliché pour vous?
Ah non, j'y crois fermement. Je pense que beaucoup d'hommes ont une part de féminité en eux et heureusement d'ailleurs.
Alors vous publiez un livre parce qu'il y a des femmes chez Michel Lafond, c'est oui. Quoi l'idée du livre?
L'idée du livre, c'est qu'une société qui ne met pas au cœur de son fonctionnement les femmes est une société qui continue à être malade et qui boite. Tant qu'on n'aura pas compris que les femmes sont vraiment l'égale de l'homme, à un même poste, même salaire, et qu'on ne sera pas témoin de ce type de choses, comme on verra mercredi, d'un harcèlement exercé par les hommes, eh bien notre société continuera de souffrir.
Alors, je l'ai dit, vous êtes également à la radio sur Europe 1 tous les jours dans l'émission Partageons nos expériences de vie de 15h à 16h. Et si j'en crois le journal Le Parisien, l'émission marche très bien. Et à la rentrée, on va vous retrouver le soir de 22h30 à 1h du matin. Est-ce que vous confirmez?
Alors, je ne confirme pas ni l'infirme. On verra. Je pense que le choix de ce créneau ne m'incombe pas. Et je pense que d'autres décideront pour moi.
Olivier Delacroix, je vous connais depuis longtemps. Je ne pensais pas que vous étiez aussi doué au ni oui ni non. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, dans les yeux d'Olivier, ce sera mercredi à 22h35 sur France 2. Merci d'avoir été ici.
Merci à vous, Philippe.
À suivre le replay télé d'Eva Rock et puis c'est presque l'heure de l'apéro et donc de la planche apéro. Ce sera avec Guy Martin du Grand Véfour à Paris. Et vous savez ce que cuisine ce chef 3 fois étoilé? Rien du tout.
À suite de notre page média sur Europe 1 avec le replay télé d'Eva Rock, Philippe Bandel.
Bonsoir Eva Rock.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Alors c'est l'heure de notre séance de rattrapage. Vous avez sélectionné comme chaque semaine 3 programmes diffusés cette semaine à la télé. Programmes qui méritent d'être vus ou revus sur Internet.
Et oui, et je vous propose de débuter avec un documentaire réjouissant qui était diffusé il y a quelques jours sur Canal Plus Family et qui est intitulé Lyon. Direction le quartier des Minguettes, vous savez, c'est dans la banlieue sud de Lyon.
Connais.
Voilà, c'est là qu'a grandi Amel Majri. Amel Majri, c'est une footballeuse que vous pouvez voir actuellement avec l'équipe de France. Et c'est là que grandissent aujourd'hui Mélissa, Keira, Rima et Erin. 4 ados, elles ont entre 12 et 15 ans, elles sont férues de foot, elles jouent dans des clubs du quartier. Mais évidemment, elle rêve de devenir un jour Amel Majri. Rima, par exemple, elle tape dans le ballon à longueur de journée au pied de la tour où elle vit avec ses parents.
Ça fait 5 ans que je fais du foot. J'ai fait du foot parce que j'aime bien courir, marquer, tout ça. J'ai joué dehors et après j'ai appris comme ça et j'ai bien aimé.
Des fois, quand elle descend jouer à la cour, je l'appelle 2 fois. Monte, monte, ouais. Monte. Elle veut pas monter.
Ma mère, elle veut pas que je reste trop avec les garçons. Sinon après, peut-être parce que garçons, c'est des mauvaises fréquentations des fois.
Et toi, t'en penses quoi de ça?
Bah, c'est vrai des fois. C'est vrai.
Bah oui, c'est vrai Philippe, des fois les garçons c'est de la mauvaise fréquentation.
Et j'adore l'accent le nez des fours.
C'est à la fois drôle et touchant, pardon. C'est parfois énervant parce que les parents qui hurlent sur le bord d'une pelouse, vous allez voir, ça devrait être interdit. Et puis autre atout de ce documentaire, la réalisation, la mise en musique, c'est à revoir avec vos enfants sur le site de MyCanal.
Alors on va poursuivre avec un autre documentaire plus patrimonial, on va dire.
Oui, l'événement jeudi soir, c'était sur France 2 avec un anniversaire, celui du journal télévisé 70 ans, avec une émission spéciale présentée par Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse, émission rythmée par des archives que vous pouvez revoir. Et puis était diffusé par la suite un excellent documentaire intitulé « Il était une fois le journal télévisé ». Retour sur la genèse de ce rendez-vous imaginé et créé par Pierre Sabag en 1949. Le JT durait alors un quart d'heure tous les jours. Pas de présentateur, mais des journalistes qui réalisaient leurs commentaires en direct, comme le raconte un certain Pierre Tchernia.
Nous faisions des commentaires en direct. On était, il y avait Dumayet, il y avait Decaune, il y avait Salbert. On était dans une petite cabine, on avait la clé à la main. Hop, on appuyait sur la clé quand notre sujet passait et on faisait nos commentaires.
J'adore la voix de Pierre Tchernia.
Et Decaune, c'est Georges.
Et
j'adore.
Oui, c'est Georges Decaune, le père. Non, c'est le père, exactement. Excellent documentaire qui revient sur les débuts épiques du JT, qui est encore regardé aujourd'hui par 10 millions de téléspectateurs, hein, tous les jours, si on comptabilise les 20h de TF1 et France 2. Et c'est à revoir sur France.tv.
Le documentaire, pas les journaux, quoi
oui.
Qu'on peut voir aussi
oui,
les journaux.
C'est vrai, les deux.
De la musique, Eva, pour terminer.
Comme d'habitude, mon cher Philippe, grâce oui. À un homme, un Zoulou blanc. Arte consacré hier soir un très bon documentaire à Johnny Clegg, qui à 65 ans a accepté de revenir sur son parcours. Vous savez, la vie artistique de Johnny Clegg se mêle étroitement avec la vie politique de l'Afrique du Sud. Johnny Clegg s'est imposé comme le porte-parole d'une société multiraciale. Et à l'époque, rares étaient ceux qui prononçaient le nom de Nelson Mandela de peur de représailles. Lui a décidé de lui consacrer une chanson au leader de l'ANC. Et puis, Mandela a été libéré. En 1999, Johnny Clegg se produit à Francfort. Sa choriste sort de scène juste un instant et elle revient. Et à son bras, Nelson Mandela. Une surprise pour le musicien qui a considéré ce moment comme le plus beau jour de sa carrière.
Bonanga, Bonanguma,
Et pour comprendre la dimension politique de la musique de Johnny Clegg, eh bien je vous recommande grandement ce documentaire disponible sur arte.tv.
Magnifique, merci beaucoup Eva
Rock. Merci Philippe.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Vous êtes bien sûr Europe 1, il est 18h53, l'heure de nous mettre l'eau à la bouche, Philippe Vandel. Et vous avez eu la chance d'être accueilli dans un lieu chargé d'histoire.
Guy Martin, bonsoir.
Bonsoir.
On est ici dans le salon du Grand Véfour chez vous, on n'est pas en cuisine. Qu'est-ce que vous nous proposez pour la planche apéro? Qu'est-ce que vous aimez vous-même?
Alors il y a deux choses, client et personnel. Donc moi je vais parler personnel. Personnel, moi c'est la charcuterie, de la bonne charcuterie. C'est inévitable quand j'invite mes copains. Donc il y a du jambon, il y a du saucisson et j'essaye de couper un petit peu à l'avance, mais de garder les pièces entières et de couper au moment. Alors je mets aussi des girolles que j'ai fait dans le vinaigre. Et si possible, là je suis en rupture de stock justement, je fais un petit appel à un de mes copains, j'ai toujours un jambon de bouc. Donc les gens sont plutôt surpris parce qu'ils connaissent pas ça.
Un jambon de bouc, le mari de la chèvre?
Le mari de la chèvre, oui. Alors pour les amateurs de sensations un petit peu moins fortes, on peut faire du jambon de chèvre, mais je préfère le bouc. C'est plus rustique, ça a un bon goût. Et juste une petite anecdote, j'avais un de mes parents qui était là. On avait été aux champignons, j'avais un petit peu mal au ventre le soir, etc. Le lendemain, il avait mal. Étant donné qu'il n'était pas français, on l'a amené chez le médecin. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez dîné ?» Ben, j'en ai fait un petit apéritif. Il me dit « Qu'est-ce qu'il y avait ?» Ben, je dis « Il y avait du jambon de bouc. » Il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est cette nourriture tibétaine ?» Et c'est un Parisien, il comprend pas.
Mais ça a quel goût, pardon de cette question, est-ce que le jambon de bouc sent le bouc?
Non, ça sent pas réellement le bouc. C'est une chair qui est d'abord assez maigre par rapport à la chèvre, qui est la chèvre. Il y a plus de grains, mais là, le bouc, c'est extraordinaire, avec un bon jambon cru de Savoie. Alors moi, j'aime pas trop les choses fumées. Ouais. Alors, bien sûr, du pâté croûte. Et puis, on peut mettre 2-3 carottes coupées en 4, voilà.
Et vous le faites vous-même, le pâté croûte, ou vous l'achetez?
Alors régulièrement, je fais du pâté, et notamment le pâté de foie, j'adore ça. C'est vachement facile à faire. Et je trouve qu'avec un bon pain, un gros pain de 2 ou 3 kilos qu'on va garder plusieurs jours, on fait des belles tranches, c'est convivial avec une bonne bouteille de champagne ou un bon vin rouge. La vie est belle.
J'allais vous demander ça. Avec ça, vous buvez quoi?
Alors ça dépend un petit peu de mes invités, de mes copains. Moi, j'adore le gamay, par exemple. Un gamay.
C'est pas vrai.
Bah, si, mais moi je suis savoyard, donc je vais prendre des gamets ou sinon une bonne bouteille de champagne. Alors, si vraiment je veux m'éclater, je prendrai un 2002-2008, hein, dans les grandes années en champagne. Voilà, c'est des choses extraordinaires. Mais pour moi, c'est le moment de convivialité, c'est le moment de partage. Il y a toute cette charcuterie qui est posée sur la table, qu'on coupe comme ça, alors plus fin, plus épais, plusieurs saucissons et du Beaufort. Toujours un petit morceau de fromage. Parce qu'un apéritif sans fromage, c'est une belle à qui il manque un œil, n'est-ce pas?
Et avec ça, on n'a plus faim, alors, du coup, pour le dîner?
Non, mais l'apéro, ça se fait aussi quand je cuisine. Donc, on fait cet apéro, je cuisine, mes copains, ils m'aident un petit peu, pas trop, pas assez, je lance aussi un deuxième message, aidez-moi un petit peu plus. Et puis voilà, ce sont des moments de partage. C'est ça qui est important. Non, après, ça peut être un petit plat léger, une petite côte de veau.
C'est léger, la côte de veau, hein?
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Guy Martin, de nous avoir reçus ici, au Grand Véfour.
Merci à vous.
Europe 1.
Et je précise que ça se trouve à Paris, au Palais Royal, là, juste à côté des colonnes de Buren. Dans un instant, le journal de 19h avec Rémi Bostaron. Pas facile à dire, Bostaron. À tout de suite sur Europe 1.
18h, 20h.
Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci de nous être fidèles et merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, soyez prudents si vous êtes au volant. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour encore une heure d'infos. L'IGPN a remis jeudi son rapport sur 2018, dont la fin d'année a été marquée par les gilets jaunes. Et un chiffre frappe les esprits, l'usage du lanceur de balles de défense LBD a augmenté de 200%. Ce chiffre est polémique. Certains voient là les signes d'un état policier, l'ONU a même comparé la France au Venezuela, mais la police des polices est droit dans ses bottes, l'usage de la force était légitime et proportionnée. Pour démêler le vrai du faux et de la propagande, je recevrai le politologue Mathieu Zadgrodzki, spécialiste des questions de maintien de l'ordre. Et puis, ne manquez pas notre demi-heure culturelle avec Philippe Manœuvre pour un concert avec 1000 guitares qui vont jouer au Stade de France pour battre le record du monde du rock.
Et vos commentaires sont les bienvenus. Réagissez à l'actu avec le hashtag Europe 1 sur Twitter. 19h, merci de nous écouter. Le journal sur Europe 1, Rémi Bostaron, Philippe Vandel.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Au sommaire de votre journal de 19h.
L'émotion à Notre-Dame où pour la première fois depuis l'incendie du mois d'avril, une messe était célébrée. Nous serons devant la cathédrale avec Justin Morin. Barack Obama est en France avec sa famille. Ils vont passer une semaine de vacances près d'Avignon et forcément beaucoup sur place espèrent les approcher. Et puis ils étaient plusieurs centaines rassemblés cet après-midi sur un barrage près de Grenoble. Des manifestants au profil très varié, unis pour protester contre la privatisation des barrages. Nous
serons sur place.
Europe 1.
Pour la première fois depuis le grand incendie du mois d'avril, une messe a donc été célébrée à Notre-Dame.
Et c'est l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, qui célébrait cet office dans des conditions particulières pour des raisons de sécurité. Aucun fidèle n'était présent. Ils étaient une trentaine de prêtres et de bénévoles à suivre cette messe qui vient donc de s'achever. Justin Morin, vous êtes sur le parvis de Notre-Dame.
Oui, et écoutez, c'est presque comme si l'incendie n'avait jamais eu lieu. En fait, Monseigneur Aupetit a mené la cérémonie très sobrement, sans trop aborder le drame d'il y a deux mois. Non, le but, c'était vraiment de montrer la continuité, que Notre-Dame reste un lieu de culte et que l'on continue d'y célébrer la messe. Mais je dis presque, parce que tout, finalement, nous y ramenait. D'abord, les casques de sécurité blancs portés par la trentaine de participants. L'entrée dans la cathédrale des prêtres en habit liturgique blanc et casque de chantier était en sens particulièrement marquante. La nef, dont le sol est encore recouverte de gravats, de pierres, de poutres noires calcinées. Et enfin, ces trois trous béants dans la voûte. Finalement, Monseigneur Aupetit a profité de l'audience qui était la sienne, la cérémonie étant retransmise en direct sur la chaîne KTO, pour faire passer son message.
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes ici en train de célébrer la dédicace de cette cathédrale. Mais nous sommes profondément heureux de pouvoir y célébrer l'Eucharistie, ce pourquoi elle a été construite. C'est aussi un message d'espérance et de remerciement envers tous ceux qui se sont émus de ce qui est arrivé à cette cathédrale. Voilà, la cathédrale est toujours vivante puisqu'on y célèbre encore l'Eucharistie.
Et dans son homélie, il a également souligné l'engouement des ouvriers qui travaillent sur le chantier, l'engouement à reconstruire quelque chose qui les dépasse, a-t-il dit, ensemble. Autre moment émouvant, la remise à l'archevêque de Paris d'un cadeau fait par les chrétiens d'Orient d'Alep en Syrie. Une petite croix blanche sculptée avec la pierre de la cathédrale d'Alep qui trouvera sa place à Notre-Dame de Paris. Et enfin, la prière au pied de la statue de la Vierge, la statue de Notre-Dame quasiment intacte, mais entourée de planches en bois puisqu'elle s'apprête à quitter les lieux pour être rénovée. C'est sur cette image que s'est terminée cette cérémonie, la première depuis l'incendie de la cathédrale il y a deux mois.
Justin Morin sur le parvis de Notre-Dame. Et à l'occasion de cette messe, on se souvient de l'élan de solidarité qui avait suivi l'incendie, l'annonce de millions d'euros de promesses de dons. Où en est-on aujourd'hui? Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame, était l'invité d'Anne-Laure Jumet dans le journal d'Europe 1 à la mi-journée.
Nous sommes à 15 millions 9. C'est-à-dire que si je prends une petite métaphore extrêmement simple, nous étions comme sur un fleuve qui coulait du 16 avril, le lendemain de l'incendie, jusqu'au week-end pascal. Et depuis, c'est comme un filet d'eau, évidemment beaucoup plus ténu, mais régulier. Et donc, je pense qu'à la mi-juillet, vous voyez, nous serons vers 17 millions d'euros. Ça signifie quoi? C'est que le soutien continue et que beaucoup de gens n'ont pas fait leur don pour un certain nombre de raisons, attendent des informations certainement complémentaires, que ce soit des Français ou des gens de l'étranger.
On a parlé de ces dons de particuliers, mais évidemment, ceux qui ont frappé les esprits, c'est aussi les promesses des plus gros donateurs, les Arnaud et Pinault notamment. Pourquoi ne voit-on pas encore concrètement la couleur de ces millions d'euros promis à l'époque ?
Nous travaillons à des conventions avec eux, ils la signeront quand nous-mêmes, Fondation Notre-Dame, établirons une convention avec l'établissement public qui naîtra de la loi.
Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame, interrogé par Anne-Laure Jumet.
L'étranger maintenant.
À Hong Kong, l'exécutif recule face à la contestation. Le projet de loi qui devait rendre possible des extraditions vers la Chine est suspendu. Décision soutenue par Pékin, mais la nouvelle manifestation prévue demain est maintenue. Les opposants demandent le retrait de ce projet de loi. L'Arabie Saoudite en appelle à la communauté internationale après les attaques contre deux pétroliers jeudi près du détroit d'Ormuz. Riyad demande une réponse décisive aux menaces sur les approvisionnements mondiaux en énergie, alors que la tension monte dans le golfe entre Washington et Téhéran après ces attaques.
Un ancien président américain qui passe ses vacances en France, cela ne passe pas inaperçu.
Et c'est même l'effervescence autour de Barack Obama et de sa famille qui sont arrivés dans le Gard hier. Ils se sont installés dans un très beau mas à Villeneuve-les-Avignon sur une presqu'île face à la Cité des Papes. Et Stéphane Frangy, devant ce mas, vous avez constaté l'enthousiasme des voisins.
Oui, et l'attente depuis ce matin d'une poignée de fidèles sur un chemin d'accès au mas qui est rendu invisible par une épaisse végétation et puis surtout par un périmètre de sécurité assez large, tenu à distance mais ému comme Sandrine venue de Montpellier.
Juste l'apercevoir derrière sa vitre, ça me suffit, c'est tout. Ah ouais, parce que c'est quelqu'un de tellement formidable cet homme.
Michelle Obama également est attendue de pied ferme par quatre militantes de la lutte contre le cancer du sein et qui souhaitent lui remettre une lettre.
Comme nous, elle est assez sensible aux causes féminines. Ouais.
On lui propose juste un petit tour sous le pont d'Avignon, franchement ça peut être sympa.
Et pour se donner de l'espoir ou pour passer du temps, c'est la chasse aux informations sur le smartphone. Mais de guerre lasse, beaucoup finissent par décrocher.
Ben je rentre parce que c'est trop long, d'accord? Mais messieurs, si vous voyez Barack, un bisou de ma part.
Ouais.
Hein, allez, ciao.
sans pour autant dire leur dernier mot.
Oui, on lâche un morceau 5 minutes, mais oui, je vais revenir. Parce que je voudrais le voir. Sur 4 jours ou 5 jours qu'il va être là, quand même, je vais le voir. Quand même, c'est obligé. Non, c'est pas possible.
Et le jeu du chat et de la souris ne fait que commencer, apparemment.
Stéphane Frangy devant le MASD, Obama à Villeneuve-les-Avignon.
Dans un instant, on prend la direction des Alpes où la mobilisation prend de l'ampleur contre la privatisation des barrages.
Il est 19h08, la suite du journal sur Europe 1, Rémi Bossaron, Philippe Bondel.
C'est une mobilisation qui prend de l'ampleur dans les Alpes, une manifestation contre la privatisation des barrages.
Oui, ils étaient plusieurs centaines rassemblés aujourd'hui sur le barrage de Saint-Égrève, près de Grenoble. Ils protestent contre la possible privatisation de ces barrages voulus par Bruxelles. Dans la foule, des militants politiques, syndicaux et même des gilets jaunes qui en ont fait un combat commun, Rémi Pierre.
Oui, et ces manifestants ont bloqué durant tout l'après-midi ce pont-barrage qui enjambe l'Isère. Ils ont notamment déployé une banderole géante portant l'inscription « Quand tout sera privé, on sera privé de tout ». Parmi eux, de très nombreux gilets jaunes comme Noria.
Le barrage hydraulique, c'est l'eau et l'électricité. L'eau, c'est vital. Demain, il va falloir payer encore plus cher notre eau. C'est très très grave quoi, ce qui se passe. Donc si on ne fait rien, demain, on va payer notre air.
Présents aussi les syndicats du secteur. La preuve, selon Philippe André, de Sud Énergie, que le sujet est fédérateur.
Dès qu'on explique en quoi ce bien commun, c'est une absurdité de le mettre en concurrence. La convergence des luttes sur ce sujet-là, elle va être facile à mener.
Une manifestation également rejointe par des politiques comme Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, ou Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste. Pour Delphine Bateau, l'ancienne ministre de l'écologie, il y a donc un large front contre cette privatisation.
Beaucoup de gens, peut-être ont mis le temps de comprendre, mais ont vraiment compris qu'il y a un enjeu de souveraineté nationale et qu'on ne peut pas laisser partir ce patrimoine. Un certain nombre d'entreprises privées vont faire main basse sur la rente hydraulique.
Delphine Bateau qui va déposer cette semaine à l'Assemblée nationale un amendement pour faire de ces barrages un service d'intérêt général et donc non privatisable.
Rémi Pierre sur le barrage de Saint-Estève près de Grenoble. Journée d'hommage un peu partout en France pour Johnny Hallyday qui aurait eu 76 ans aujourd'hui. Une esplanade, Johnny Hallyday a notamment été inaugurée à Toulouse en présence de Laetitia Hallyday. Réalisateur, scénariste, producteur, c'est un personnage incontournable de la scène culturelle italienne qui s'est éteint aujourd'hui. Franco Zeffirelli avait 96 ans. Il avait notamment réalisé Roméo et Juliette, récompensé par 2 Oscars en 1969.
Question, comment faire pour décrocher la mention très bien au baccalauréat?
Oui, il est peut-être temps de se poser la question. Le bac, ça commence lundi avec les épreuves de français et de philosophie. Virginie Selmen a demandé les trucs et astuces de ceux qui ont décroché cette fameuse mention.
La technique de Nina, c'est de faire des micro-révisions avant et après les épreuves, dès que l'occasion se présente, même sur la pause du midi.
Juste réviser les choses sur lesquelles je savais que j'étais pas au point. Optimiser les révisions en regardant des plans, si on a une mémoire visuelle ou en écoutant des enregistrements, mais rapide quoi. Sur le chemin pour aller au lycée, j'ai une amie qui m'a donné son plan et ça a bien fonctionné. C'est le sujet qui était tombé en histoire, c'était sur la Chine, je crois.
Pour Quentin, au contraire, à partir de ce dimanche, la clé, c'est de ne rien faire. Conseil qu'il a appliqué à la lettre et ça a marché.
Alors moi, j'ai joué à la PS2 la veille et l'avant-veille. C'est une console de jeux vidéo. Et ça a bien marché, je lui mentionne très bien, donc... Je suis regardé des séries.
Très détendu, Quentin. Benjamin, un peu moins. Il a préféré faire des révisions de dernière minute la nuit entre les épreuves pour colmater ses lacunes. Et ça a marché aussi.
Chaque jour après les épreuves de 22h jusqu'à 2h, je me refaisais tout ce que j'avais pas vu parce que j'étais un peu en retard, quoi. Et même histoire que Nina, pour le bac de SVT, j'ai demandé à un ami juste avant d'entrer dans la salle le plan pour un des sujets de composition. Il me l'a dit et c'est tombé. J'ai vraiment eu de la chance parce que sinon j'aurais pas pu gérer. C'est sur 8 points sur 20 en S.
Donc voilà le conseil de Benjamin qui a aussi décroché une mention très bien. Provoquer sa chance.
Virginie Selmen, spécialiste éducation d'Europe 1.
Et c'était le journal de Rémi Bossaron. Merci beaucoup Rémi.
Europe 1, 19h12.
La météo, avec vous Valérie Darmon, aujourd'hui c'est très orageux, est-ce que demain ça s'améliore?
Absolument Philippe, ça s'améliore partout, la perturbation d'aujourd'hui s'évacuera par l'Allemagne cette nuit, mais une autre se mettra en place par les côtes de la Manche avec quelques averses, notamment en Bretagne et en Normandie. Entre les deux, c'est la calmie tout de même et le retour d'un temps sec et agréable pour le reste du pays, un petit peu moins donc si vous habitez entre la Bretagne et les Hauts-de-France, et le risque d'orage qui restera isolé demain après-midi dans les Alpes et le Jura. Le matin, les températures seront comprises entre 10 et 17 en général, avec une fraîcheur marquée dans les plaines d'Aquitaine, et l'après-midi, vous aurez entre 20 en bord de Manche et 21 à 25 en allant vers la Loire, 26 à 30 dans le sud.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Le journal des sports.
Le journal des sports avec vous Christophe Lamar, rebonsoir.
Rebonsoir.
Et c'est l'épilogue du championnat de France de rugby, la finale du top 14 qui va opposer les deux meilleures formations de la saison.
À Toulouse et Clermont, les deux premiers de la saison régulière, une finale de rêve. Du côté des joueurs et des entraîneurs, chacun tente d'évacuer la pression qui précède un grand rendez-vous. Il faut aussi choisir celui qui jouera et donc celui qui restera sur le banc au moment du coup d'envoi. Un moment pas toujours facile comme le reconnaît l'entraîneur clermontois Franck Azéma.
C'est dur parce qu'on essaye d'être le plus honnête possible vis-à-vis des joueurs et il y a beaucoup d'affect avec eux et donc tu sais qu'il y a des garçons que tu laisses sur le carreau et que c'est dur et qu'ils ont contribué énormément toute la saison. Mais j'ai été joueur aussi et je sais que quand ce qui est important c'est d'être sur la feuille et voilà. Mais c'est pour moi, je te dis, c'est des bons soucis. C'est une des premières fois où pour une fin de saison et des phases finales, on a quasiment tout notre effectif au complet. Donc c'est une bonne nouvelle dans ces moments-là.
Franck Azéma avec Simon Rubin, Toulouse-Clermont, coup d'envoi de cette finale du top 14 à 20h45. Un match à suivre sur Europe 1 dans l'émission Europe 1 Sport.
On va prendre la route des 24 heures du Mans avec les pilotes qui vont affronter tout à l'heure un adversaire coriace la nuit.
Oui, et la nuit, tous les chats sont...
gris.
Oui, et ben pas forcément.
Ah,
c'est ce que redoutent tous les pilotes amateurs comme professionnels, même s'ils ont appris à la dompter la nuit, rouler à la seule lumière des phares. Cela s'apprend. Explication de Thomas Laurent, qui pilote une Rébellion R13 Gibson dans la catégorie LMP1.
Bien évidemment, le regard s'adapte. Après, nous aussi, on s'adapte. On a des visières un peu plus colorées. Par exemple, je sais qu'il y a des pilotes qui utilisent des visières jaunes ou des visières oranges pour vraiment éclairer un peu tout ce qui se passe autour. Et voilà, première fois que j'ai roulé de nuit, j'ai eu la chance d'avoir le coucher de soleil. Je sais pas si c'est une chance parce que je l'ai vu dans les yeux, mais au moins j'ai eu le temps de m'adapter au sombre qui vient tout doucement. Donc non, c'était vraiment une très bonne expérience et maintenant j'adore rouler de nuit.
Thomas Laurent, pilote Rébellion au micro d'Axel May. Vous savez qu'il y a une autre technique qu'utilisent certains pilotes pour repérer les points de corde et les virages.
Dites.
En fait, en pleine ligne droite, ils comptent mentalement en nombre de secondes. 1, 2, 3, 4 et à 5, je sais que je vais attaquer le virage, machin, il faut que je freine.
Voilà. Là, on est à 6. Le reste de l'actualité sportive, en bref.
Le mondial de football avec les Pays-Bas qualifiés pour les huitièmes de finale après leur victoire 3-1 face au Cameroun. En cyclisme, le néerlandais Wout Poels remporte la 7e étape du Dauphiné. Les coureurs qui ont dû composer avec une pluie battante et des orages violents. Au classement général, l'écart est réduit entre les prétendants. Le maillot jaune Jakob Fuglsang n'a que 8 secondes d'avance sur son dauphin Adam Yates. Le handball, Alison Pinault jouera à Paris 92 la saison prochaine. La championne du monde et d'Europe l'a annoncé elle-même sur les réseaux sociaux. Elle quitte Brest après une saison mitigée sur fond de désaccords profonds avec l'encadrement du club. Et puis la MotoGP, Fabio Quartararo en pole position du Grand Prix de Catalogne. C'est la deuxième fois cette saison que le Français signe le meilleur temps des qualifications au guidon de sa Yamaha.
Et c'était le journal des sports de Christophe Lamar. Merci beaucoup Christophe.
Europe 1.
À suivre, plus 200%, l'usage des LBD et des grenades de désencerclement a donc triplé en 2018. Le rapport de l'IGPN a chiffré jeudi ce que l'on pressentait, un usage de la force décuplé en raison des manifestations des Gilets jaunes. Faut-il pour autant parler de violence policière ? Le politologue Mathieu Zadgrodski, spécialiste des questions de maintien de l'ordre, est avec nous dans un instant.
À 20h, vous écoutez Philippe Bandel. C'est la suite de votre grand journal du soir. Et maintenant, à 19h19, vous allez nous éclairer sur une polémique, Philippe.
L'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, encore appelée la police des polices, a remis jeudi son rapport sur l'année 2018, année marquée, faut-il le dire, par les gilets jaunes. Et un chiffre frappe les esprits. L'usage du lanceur de balles de défense, les LBD, et de grenades de désencerclement a augmenté 200%. Bonsoir Mathieu Zadgrodski.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité publique. D'abord, comment appréhender ces chiffres, que signifie-t-il ?
Ça fait beaucoup, hein. Il y a une augmentation, comme vous l'avez dit, qui a été très significative. Alors après, ça dépend des outils, si on parle du LBD ou des grenades de désencerclement.
J'ai tous les chiffres, voilà. On va tous les détailler. Voilà, mais déjà, d'une manière générale...
D'une manière générale, c'est beaucoup, forcément, parce qu'il y a eu des opérations de maintien de l'ordre répétées, semaine après semaine. Et les chiffres de 2019 seront sans doute importants également, vu que cette crise s'est prolongée sur tout le premier trimestre 2019.
Évidemment, je précise que ces chiffres comportent juste 2018, donc les manifestations des Gilets jaunes qui ont démarré le 19 novembre, au début du mouvement, jusqu'à la fin décembre. Alors, il y a peut-être une petite entourloupe mathématique. J'aimerais bien avoir votre expertise.
Allez-y.
Quand on entend une hausse de 200%, on entend que ça a doublé.
Mais non, pas du tout. Ça a triplé. Parce qu'un doublement, c'est une hausse de 100%. Est-ce que l'IGPN n'aurait pas opportunément minimisé les chiffres, selon vous? Ou est-ce que c'est la manière toujours de présenter les choses?
Non, c'est la manière de présenter les choses. On présente toujours les choses statistiquement avec des pourcentages. Donc là, je ne pense pas qu'il y ait une intention de cacher quoi que ce soit.
Est-ce que ces chiffres sont à relativiser? Parce que dans un contexte de violence, il faut répondre à cette violence. Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut dénoncer des violences policières croissantes? L'ONU avait comparé la France et le maintien de l'ordre de la France à la situation du Venezuela et d'Haïti.
Bon, alors, il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non plus fermer les yeux. Alors, quand on compare à Venezuela, Haïti, moi, je vais donner un chiffre, hein, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 60, en gros, la fin de la guerre d'Algérie, il y a quelque chose comme 150 personnes qui sont tuées en France suite à des opérations de maintien de l'ordre. Depuis cette époque-là, en cumulé, on est à moins de 20. Donc, on a un maintien de l'ordre, certes, qui blesse, qui pose un certain nombre de problèmes, mais qui ne tue pas comme dans d'autres pays. Maintenant, oui, évidemment qu'il y a des problèmes. Quand il y a 25 personnes qui ont été éborgnées au cours des manifestations des Gilets jaunes, il y a forcément des questions qui se posent. On ne peut pas éluder cette question des méthodes sans pour autant nier non plus que les policiers ont été, et les gendarmes aussi d'ailleurs, ont été exposés eux-mêmes à des violences très importantes.
Le journal Libération a fait sa une et 5 pages avec cet argument. La police des polices et le ministère de l'Intérieur, avec elle, opère, je le cite, « un véritable déni de réalité sur l'ampleur des violences commises en manifestation ». Est-ce que vous êtes d'accord avec Libération?
Bon,
est-ce qu'il y a un déni?
Alors, est-ce qu'il y a un déni? Il y a sans doute des euphémisations et il y a sans doute aussi une querelle sémantique autour du terme de violence policière. L'un des propos marquants de Madame Julien, qui est la directrice de l'IGPN, c'est de dire « je réfute le terme de violence policière ».
Voici exactement ce qu'elle a dit en conférence de presse. « Il y a eu des blessures commises à l'occasion de manifestations durant lesquelles la police a fait usage de la force, mais le travail de l'IGPN consiste à savoir si cet usage était légitime et proportionné ». Alors pourquoi elle récuse le terme de violence policière? Mais là, c'est peut-être une argutie juridique ou pas, vous allez me dire. C'est parce qu'il est trop tôt pour le dire, selon elle, donc il n'y a pas encore de violence policière.
En fait, l'argument général de la police, c'est de dire le terme violence policière ne signifie pas que c'est illégitime, parce que la police a le droit d'user de la violence dans un certain nombre de circonstances. Donc, en fait, les enquêtes servent à déterminer si ça a été utilisé légitimement ou pas. Bon, dans la bouche, moi, par exemple, quand j'emploie le terme de violence policière, sous-entendu, ça veut dire illégitime. Moi, personnellement, je l'emploie. Mais ça ne veut pas dire que j'estime que toutes les interventions policières sont illégitimes et que la violence, la force utilisée par la police est forcément illégitime. Après, c'est toute la difficulté, à la fois pour l'IGPN et pour le ministère plus généralement, c'est que on est dans une période extrêmement sensible qu'il faut recontextualiser dans ce qui s'est passé ces 3-4 dernières années. C'est-à-dire on a une profession policière qui est au bord de la rupture, qui a une crise sociale très forte. Il y a eu des mouvements de grogne à la fin de l'année 2016. Il y a des suicides qui sont en hausse. Il y a une accumulation d'heures supplémentaires qui est absolument spectaculaire, puisqu'on est largement au-delà de 20 millions d'heures supplémentaires qui ont été accumulées dans la police nationale. Donc aussi bien du côté de l'inspection générale que du ministère, il y a une sorte de communication prudente pour pas complètement se mettre le corps à dos.
L'IGPN est-elle indépendante? Elle doit parfois enquêter sur sa propre hiérarchie, et elle dit elle-même, Madame Brigitte Julien dit qu'elle est indépendante.
Bon, d'un point de vue hiérarchique, l'IGPN dépend du directeur général de la police nationale, qui lui-même dépend du ministre de l'Intérieur. Alors ensuite, l'IGPN est aussi sous le contrôle de la justice. Il faut aussi préciser ça. Bien sûr, il y a un contrôle hiérarchique de l'IGPN, mais il y a aussi un contrôle du parquet.
Alors je vais poser ma question encore plus clairement. Est-ce que c'est un État dans l'État? Est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent à l'IGPN?
Alors, est-ce qu'ils font ce qu'ils veulent par rapport à leur hiérarchie? Est-ce qu'ils sont complètement indépendants par rapport à ça? C'est très très difficile à dire. C'est un reproche qui est souvent fait, en tout cas, à l'IGPN par comparaison, par exemple, avec les Britanniques. Les Britanniques ont des corps d'inspection qui sont complètement, en fait, indépendants de la hiérarchie, qui sont, en fait, un peu comme des autorités administratives indépendantes. Et ce serait peut-être un modèle vers lequel, auquel il faudrait réfléchir, parce qu'on mettrait de côté, on écarterait ces accusations. Il y a un défenseur des droits en France. C'est-à-dire, en gros, si vous êtes victime notamment d'une intervention policière que vous considérez comme illégitime, comme violant vos droits, vous pouvez évidemment saisir le défenseur des droits. Mais il n'a pas du tout les mêmes pouvoirs d'investigation que l'IGPN ou que cet équivalent britannique dont je viens de parler.
Le défenseur des droits, si je ne me trompe, c'est Jacques Toubon, qui n'a pas manqué de faire entendre sa voix contre, justement, les violences policières. L'IGPN a relevé entre novembre 2018 et le 8 juin, donc là, on est à cheval sur 18 et 19, l'ouverture de 265 enquêtes judiciaires liées au mouvement des Gilets jaunes. Et de son côté, le journaliste indépendant David Dufresne, qui tient une recension, en était à 840 exactions reliées au 11 juin, donc 265, 840. Comment expliquez-vous cette différence?
Le travail de David Dufresne, il est, en gros, il est déclaratif. Enfin, il se base sur du déclaratif. Ce sont des gens qui se sont estimés victimes, en fait, de violences illégitimes de la part de la police. Et donc, David Dufresne établit cette comptabilité et relaie ça via les réseaux sociaux et notamment son compte Twitter. Pour qu'il y ait l'ouverture d'une enquête, il faut que la justice estime qu'il y a des éléments tangibles, qu'il y a des éléments de preuve suffisants qui peuvent ensuite déboucher sur une éventuelle mise en examen, en gros, une éventuelle judiciarisation de l'affaire. Alors, encore une fois, il faudrait entrer dans le détail des 800 ou 900, je ne sais plus combien vous m'avez dit, d'affaires relatées par David Dufresne, mais ça s'explique par ça.
Autre chose qui a frappé, les Gilets jaunes ont le sentiment d'une justice à deux vitesses. Les manifestants, disent-ils, sont parfois jugés en flagrant délit, parfois condamnés, parfois même incarcérés, alors que pour l'instant, aucune sanction n'a jamais été prise, disent-ils, contre aucun policier. Comment s'explique cette différence ?
Bon, alors là, il y a une réponse à deux niveaux, très rapidement. La première, c'est que, effectivement, ce qui peut interpeller, c'est qu'il y a très peu d'enquêtes administratives et de suspensions. Je crois qu'il n'y a même pas du tout de suspensions administratives. Opéré par l'IGPN. Parce qu'en fait, il y a une procédure judiciaire, une procédure administrative. Procédure judiciaire, l'IGPN est saisie par le procureur. Enquête administrative, c'est la hiérarchie qui saisit. Là-dessus, ça interpelle. Ensuite, sur la différence de célérité entre manifestants d'une part, un policier d'autre part. Quand, je vais prendre quelque chose de très schématique. Quand vous détruisez un abribus en bande et que vous êtes interpellé, c'est une infraction.
Doute n'est pas permis.
Le doute n'est pas permis. Il y a une infraction, il y a interpellation et vous pouvez passer en comparution immédiate. Dans tous les cas où la police utilise la force, et on en revient à ce que je disais au tout début sur violence légitime, illégitime, violence policière, c'est qu'en fait, il faut déterminer si cet usage de la force était illégitime. Un policier qui tire un coup de LBD 40, il a le droit de le faire. Mmh. Il a été équipé.
Mais et c'est ce que disait, pardonnez-moi, Brigitte Julien, qui disait le policier fait un usage légitime de la force alors que les manifestants participent à un attroupement illégal. Donc en soi, ça ne se discute pas. L'attroupement est illégal.
Alors l'attroupement est illégal. Ensuite, on peut discuter de la légitimité de la loi, de la réplique et tout ça. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est que la justice doit déterminer, l'enquête doit déterminer si en fait l'usage de la force est illégitime du côté des policiers.
Vous reviendrez parce qu'on attend les chiffres 2019. Merci beaucoup, Mathieu Zadgrodzki. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des questions de sécurité publique. Europe 1. À suivre notre page culture, comme chaque samedi, on va scanner la santé mentale de ceux qui ont fait le monde avec Nicolas Caro. Thierry Geffretin et Tintin nous emmèneront sur la Lune. Les 500 ans de la reconnaissance, avec Vanessa Zaza, c'est moi qui ne reconnais plus rien. Et autour, tout ça, de Philippe Manœuvre, une demi-heure vraiment, vraiment rock'n'roll.
Il est 19h30 et on retrouve Philippe Vandel pour la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1.
La demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zaza, bonsoir.
Et bonsoir Philippe.
Vanessa Zaza et son sac à dos. Nicolas Caro, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Caro et sa bibliothèque portable. Et Thierry Geffretin, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Avec son diapason, vous avez le la absolue ?
Non, mais pour moi il est toujours relatif.
Heureusement que vous n'avez pas dit oui, sinon je vous aurais demandé de le chanter. Notre invité, Philippe Manœuvre, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Journaliste, ancien patron de Rock'n'Folk, homme de télé, on vous avait découvert dans La Nouvelle Star. Non, le grand public vous êtes découvert dans La Nouvelle Star sur M6, mais vous présentiez déjà Sex Machine dans les années 80, immense fan de rock devant l'éternel, et une fois n'est pas coutume, je vais démarrer cette demi-heure en citant le journal Le Monde. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est une idée monstrueuse, un groupe géant, le Léviathan du rock'n'roll. 350 guitaristes, 250 batteurs, 220 bassistes et autant de chanteurs, plus de 2000 musiciens réunis le 29 juin sur la pelouse du Stade de France, le plus gros concert de rock'n'roll du monde. Je ferme les guillemets et c'est vous, Philippe Manœuvre, qui serez le maître de cérémonie. Ça s'appelle Rockin' Mill, pardon pour l'accent. Racontez ce projet fou.
Eh ben, c'est un projet qui est né sur une frustration, ce qui est toujours amusant dans le rock. C'est souvent comme ça que ça commence et ça se passe en Italie, où un fan de rock qui habite une petite ville à côté de Rimini découvre avec consternation que la grande tournée des Foo Fighters va visiter 9 villes d'Italie, mais pas la sienne. Et donc, il se dit, on va attirer l'attention de Dave Grohl, il faut qu'on fasse un événement. Et il a l'idée, mais totalement folle, de réunir 1000 rockers dans le stade de sa ville et il joue un morceau des Foo Fighters. Et là, évidemment, il y a 24 millions de vues sur Internet, Dave Grohl descend de son nuage et dit « Mes amis, si vous voulez, on va chanter pour vous ». Enfin, voilà, tout se passe bien. Et en même temps, quand ils ont fait ça, ils ont découvert un truc fabuleux, c'est quand il y a 1000 musiciens qui jouent le même morceau, il y a quelque chose, en fait, c'est du niveau de la folie, du merveilleux.
Je peux pas dire autrement, la folie, le merveilleux, c'était en 2015 dans la petite ville de Cesena. Écoutez.
Mmh.
mes camarades dans la banane, ils ont les poils, moi aussi j'ai les poils, les poils sur les bras, c'est complètement dingue.
Et surtout ça rend pas du tout idée, parce que les gens ils entendent ça dans leur transistor ou leur voiture, mais quand on est dans un stade et qu'il y a 1000 musiciens qui jouent en même temps, c'est cosmique, c'est comme quand il y a la grande chorale dans le stade de Lille, enfin voilà, et là c'est le rock qui est concerné, parce que va y avoir, ils vont faire 19 titres, morceaux de David Bowie.
Alors justement, la playlist, c'est vous qui l'avez concoctée, Philippe Manœuvre,
avec
il y aura quoi?
Un morceau obligatoire, quel fameux morceau des Foo Fighters qui a tout démarré, ça c'est quand même mon copain, mon alter ego italien m'a dit, c'est à celui-là, tu touches pas. Et...
Vous n'avez pas répondu à ma question. Il y aura quoi alors dans la playlist que vous avez faite?
J'ai essayé de rassembler les tribus. Ouais. Mais il y a une tribu classique rock, il faut qu'il y ait du Stones, du Led Zeppelin, du Deep Purple.
Alors lequel de Stones? Il y a Smoke on the Water alors j'imagine.
Il y a Smoke on the Water de Deep Purple, oui bien sûr, c'est un des plus grands riffs de tous les temps, c'est un hymne de stade par excellence. Les Stones, j'ai eu la chance de parler à Keith Richards et on hésitait entre Start Me Up et Jumpin' Jack Flash. Et il m'a dit, Start Me Up, vous serez obligé de commencer par ça, c'est un peu bête. Il dit, moi j'attendrai que les garçons qui jouent et les filles, parce qu'il y a beaucoup de filles, aient une heure de chauffe dans les doigts, et là vous faites Jumpin' Jack Flash. C'est ce qui va se passer. Il y aura du Led Zeppelin.
Ça sera quoi, c'est pas facile à jouer Led Zeppelin.
Led Zeppelin, c'est un medley exceptionnel. Je crois que ça va être le clou de la soirée.
Vous pouvez pas le dire.
Il y aura du punk, il y aura du Ramones, il y aura du Clash. Led Zeppelin, c'est un medley, donc je vais pas vous dire Lotta Love Cashmere. Wow. Qu'est-ce que je veux dire?
Non, mais il faut savoir jouer.
Mais bien sûr, alors les gens sur 4000 postulants, on a eu 4000 postulants, on en a choisi 1038. Et ils répètent depuis le mois de janvier. C'est-à-dire que toutes les semaines, par internet, on leur envoie un tuto ring où s'ils sont batteurs, il y a un batteur qui explique, ils ont la partition, ils ont le gourou donc qui leur explique comment on joue ce mystérieux morceau, comment il faut faire, et après ils n'ont plus qu'à le répéter. Bon, les musiciens savent répéter les morceaux.
Comment ils ont été choisis? J'ai lu qu'il fallait qu'ils signent une décharge en disant qu'ils étaient officiellement des musiciens amateurs.
Oui. Bah oui, parce que c'est fait pour les amateurs, c'est pas des pointures, c'est pas des intermittents, c'est pas des pros, c'est vraiment pour prouver que tous ensemble, à 1038 musiciens, on va pouvoir proposer un spectacle digne de ce nom. Ils sont à bloc. Hein. Ouais. Moi, j'ai été voir une répète, parce qu'il y en a, ils ont créé un site uniquement pour les participants, où même moi, je peux pas aller. Tac. Mais j'ai vu qu'on m'a dit qu'ils répétaient tous. Maintenant, ils ont le goût du sang, quoi. Ils se répètent. J'étais à main d'œuvre dans Saint-Ouen, avec il y a un grand local de répétition, ils répètent à 50. C'est donc 5% du groupe final. Mais c'est quand ils se mettent à jouer You Really Got Me des Kings tous ensemble. Waouh, c'est de l'ordre du mystique. Vous vous dites, mais c'est pourquoi on n'y a pas pensé avant? Enfin, c'est formidable.
Pourquoi 1038? Pourquoi pas 1035 ou 1040?
Ça fait comme ça.
Et pourquoi vous n'avez pas gardé ceux du départ?
Ceux du départ
en Italie. Concert
ils sont en Italie.
Non,
c'est pas amusant. C'est pour faire. Il faut que chaque pays. Alors là, il y a toute une nation rock qui s'est réveillée et qui est très active. Les gens, enfin vraiment. Puis c'est fait pour faire du bien aux rockers français. C'est pas. On va pas faire ça avec les Italiens du début.
Ouais, je sais pas. Quand on veut dire les Rolling Stones, c'est les mêmes mecs qui viennent, quoi.
C'est un autre concept. Et là, c'est juste le concept. C'est juste des amateurs et qui se réunissent avec Philippe Manœuvre qui va faire coucou là-haut, mais c'est tout. Et c'est les amateurs qui vont faire le spectacle, qui vont faire le show, et ça sera leur triomphe.
Je vous explique, c'est que Nicolas Carreau vit sur un très grand pied. Les Rolling Stones, ils sont 5, mais 1038 billets d'avion, 1038 nuits d'hôtel. Tiens, justement, parlons de ça, c'est eux qui payent. Chaque musicien vient avec son ampli, sa gratte, sa batterie.
Bah oui.
Mais le gars qui a un gros ampli et l'autre qui a un tout petit, on va pas l'entendre. Comment on va régler ça?
Alors les amplis, c'est 100 watts pour les bassistes et 300 pour les guitaristes. Mais on peut pas, il n'y a pas un bassiste qui va arriver avec un ampli 800 watts et couvrir 50 mètres carrés avec son ampli. D'ailleurs, tout le monde a envie de respecter les règles, tout le monde a envie de jouer. Il y a une histoire très drôle. C'est un type, un copain à moi, journaliste au Parisien, qui sort sa basse de sous son lit et qui se dit, je vais le faire, je vais participer, comme ça je vais être au milieu de l'événement, je vais faire partie du groupe. Et bon, sa basse, il n'en a pas joué depuis 10 ans, donc il se dit, c'est pas possible, il fonce à Pigalle, il va dans un magasin pour la basse, il rentre et il dit, je voudrais un jeu de cordes. tout neuf, et le mec lui dit ah, vous allez au stade.
C'est bon, ça. Et il y a des groupes électrogènes de prévu.
Oui.
Parce que...
Il a été pris ou pas?
Évidemment qu'il a été pris.
Oh, c'est qui?
Bah, bien
on
sûr,
va lire son
c'est
papier.
Moi, c'est Eric Bureau, du Parisien, qui va être là à la basse. Et il y a Olivier Nuc du Figaro qui sera à la guitare.
Et il paraît qu'il y a même un comédien connu.
Il y a un comédien connu.
Vous
il y a,
savez qui ouais, c'est?
Non, mais non, on ne peut pas le dire. Non, c'est un amateur, dans l'occurrence. On ne va pas faire un plat là-dessus.
Bon. Je salue Olivier Nuc du Figaro. Mon gars, t'es pas connu. On a pu donner ton nom.
Ça, c'est
on
vrai.
Reste avec Philippe Manœuvre, qui est très connu dans la demi-heure culturelle. On va tout vous raconter sur les 1038 guitares, parce qu'on n'a pas encore tout dit.
Europe 1. 19h39, vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1. Et on va continuer à parler culture avec vous, Philippe Vandel, vos complices et votre invité.
Suite de la demi-heure culturelle de ce 18-20 avec Vanessa Zah, Nicolas Caro, Thierry Geffrotin et Philippe Manœuvre, qui sera le maître de cérémonie de Rocking Mill. Ça sera le 29 juin au Stade de France. Il y aura 1038 musiciens et musiciennes, parce qu'il y aura des femmes sur scène
qui
vont jouer.
J'ai beaucoup de batteuses. Je les attendais à la basse, les filles, comme dans les années 80.
Ouais, comme Corinne de Téléphone.
Voilà, et ben je les vois arriver à la batterie. Il y a beaucoup de filles qui s'éclatent à la batterie, qui sont... Oh, ça fait un choc, hein. C'est vraiment impressionnant quand tu as... Toutes ces 200 batteries qui se mettent à jouer ensemble.
250 batteurs, 220 bassistes, 350 guitaristes, autant de chanteurs que de chanteuses.
Voilà.
Vous avez respecté la parité.
Oui, on a respecté tout de suite. C'est les gens du Stade de France qui produisent l'événement, ont tout de suite dit il faut qu'il y ait autant de chanteuses que de chanteurs. On ne va pas faire 100 chanteurs et 10 chanteuses, on veut la parité.
Ouais. Comment seront disposés les musiciens? À la va comme je te pousse,
géographiquement, mais les batteurs dans les deux virages. On met 150 batteurs et 150 batteurs dans les virages pour sonoriser le stade. Ensuite, il y a des guitaristes à droite, il y a des guitaristes à gauche, et au milieu, il y a les bassistes. Et devant, il y a une grande ligne de chanteurs et de chanteuses.
Le Stade de France va être quasiment plein, 45 000 places.
Vendues déjà,
tout
au moment
vendu.
Où on parle.
Mince alors.
On a vendu plus de 45 000 places, et là, je pense qu'on sera 50 000. Le stade sera sold out, complet, pour cet événement incroyable. Parce qu'il n'y a pas de Mick Jagger, il n'y a pas de Jean-Louis Aubert, il n'y a pas de grand nom sur lequel on pourrait s'accrocher en disant il revient, et voilà.
Il y a Olivier Nuc quand même.
Là, il y avait, à part Olivier Nuc.
Non, mais vous, le plus gros nom, c'est le vôtre. Non, voilà. Blague à part, le plus gros nom, c'est le vôtre, ou est-ce qu'il y aura des surprises?
J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été voir toutes les rédactions, et ensuite j'ai appelé quelques amis. Il y aura peut-être une ou deux surprises.
Ouais, parce que vous connaissez un peu de monde dans le milieu de la musique quand même.
Plus, on ne peut pas en dire plus, mais c'est sûr qu'il nous faudra un très grand guitariste pour faire les solos. On a un ou deux solos incontournables. Notamment, on va jouer un morceau de Queen où le solo est obligatoire.
Ah oui.
Mais je ne peux pas demander à 300 guitaristes de jouer un solo en même temps. Parce que le solo, c'est la liberté, c'est l'improvisation. Que se passerait-il? Donc, on va amener un Cador.
Voilà. C'est quel morceau de Queen? C'est quel morceau de Queen?
We Will Rock You.
Ah, par contre, moi, je tiens la batterie.
Mais vous n'êtes pas Olivier Nuc, hein, vous n'êtes pas sélectionné.
Moi, je suis à la basse. Là, vous êtes dans votre élément, Philippe Manœuvre, et vous avez dit une fois, après La Nouvelle Star, j'étais très médiatisé, tellement médiatisé, tout le monde me voulait, et on me proposait en permanence des choses décalées. C'est quoi le truc le plus décalé qu'on vous ait proposé, le plus éloigné de vous?
Comme ça, brûle pour point, je ne saurais pas vous dire. Non,
je crois que c'est
Danse avec les Stars.
Ah, d'accord.
C'est très loin de moi, parce que j'ai les deux ménisques cassés, donc ça serait Danse avec des béquilles.
Ah, mais attendez, ils voulaient de vous comme danseur?
Oui.
Ah, je pensais dans le jury.
Ah non.
Ah oui, non, mais il y a quand même des gens qui ont fait la pub pour les cracottes ou pour du papier toilette.
Non, mais alors moi, je ne fais pas de pub.
Moi, on m'avait proposé la pub pour les cracottes et j'ai dit non.
Non, moi, je ne fais pas de pub. On m'en a proposé, mais j'en parle même pas. Mais par contre, des vrais trucs, Danse avec les Stars, là, j'ai pas pu.
Comment ça va dans votre tête, Philippe Manœuvre?
Ben là, ça va, parce que je sais pas, je me dis c'est tellement important pour ces 1000 musiciens que moi, ils ont une demande, évidemment, c'est un grand moment, on va avoir tous la bloblotte, le trac, mais on doit passer une méga bonne soirée, ça repose un peu sur mes épaules. Mais je suis très secondé avec mes 1000 copains musiciens, là.
Et mais attendez, vous allez revenir entre chaque morceau,
ouais.
Non? Ah, si.
Oui, si, bien sûr.
Ah, vous allez faire un petit tuto à chaque fois en disant...
Pas un tuto à chaque fois, parce que ça sera un peu monotone, mais on va essayer de faire quelque chose d'amusant, d'intéressant, que les gens ne s'embêtent pas dans le stade.
Je vous demandais comment ça allait dans votre tête, parce que Nicolas Caro s'est intéressé à la santé mentale des grands de ce monde, en l'occurrence des grands dirigeants.
Ouais, on s'en doutait un peu, mais ça va mieux en le disant. Et en le lisant, la plupart des grands dirigeants ont un grain. Ils sont tous un peu fous, Churchill, Staline, Staline, Napoléon, Louis XIV. C'est même pour ça qu'ils sont arrivés au sommet de l'État. Et le psychiatre et docteur en neurosciences Patrick Lemoine s'est penché sur la biographie de ces hommes de pouvoir. Il a cherché des symptômes un peu partout et livre son diagnostic dans la santé psychique de ceux qui ont fait le monde. C'est chez Odile Jacob. Alors le coupable, je peux vous le dire tout de suite, le coupable c'est l'hubris, c'est-à-dire l'orgueil démesuré, une forme d'intoxication au pouvoir. D'ailleurs, il a été démontré, d'après Patrick Lemoine, scientifiquement que le pouvoir modifie le cerveau.
Ouais. Et alors, est-ce qu'il dessine le portrait psychologique de chacun ?
Alors, dans le livre, à chaque chapitre correspond un dirigeant et ça se termine par un diagnostic et un encadré intitulé « Si j'avais été son psychiatre », c'est-à-dire le traitement. Mais Patrick Lemoine est beau joueur, c'est-à-dire que si à la fin du chapitre, donc de son analyse, il n'a rien trouvé de grave, il le dit. Et pour De Gaulle, par exemple, c'est le premier, il n'y a rien. Ouais. Forcément, il est un peu rigide,
ah, mais De Gaulle, il
légèrement
est pas
fou. Bipolaire éventuellement, mais rien de grave. Pour Hitler, ah, bah en revanche, oui. Mais on aurait deviné tout seul, c'est très clair, paranoïaque, idéaliste, passionné. Bon, moi, je vais tout de suite au diagnostic, mais ce qu'il y a de passionnant dans ce livre, c'est que Patrick Lemoine revisite donc toute la biographie du personnage pour tirer ses conclusions. Et on apprend donc, en matière d'histoire, beaucoup de choses et aussi en psychologie. Staline, par exemple, était aussi paranoïaque comme Hitler, mais une paranoïa différente. Hitler était un paranoïaque idéaliste passionné, donc, mais pour Staline, c'est de la paranoïa simple ou syndrome persécutoire. Et si j'avais été son psychiatre, dit Patrick Lemoine, il aurait conseillé un internement dans une unité pour malades difficiles avec traitement antipsychotique injectable. Sinon, il aurait recraché les médocs.
Il y a Churchill aussi. Il était particulier lui aussi, même s'il si y avait ouais, aussi la bouteille.
C'est plus subtil. Il était bipolaire avec addiction multiple et syndrome d'apnée du sommeil. Alors, il conclut ça parce que Churchill était l'héritier de 7 générations de bipolaires et il y a quand même un petit lien génétique. Et il disait dormir peu, ce qui correspond aux périodes maniaques des malades. Et l'apnée du sommeil est liée aux troubles bipolaires. Il y a des femmes aussi. Marie-Antoinette, par exemple, Patrick Lemoine avait une petite intuition sur elle, mais en fait, c'est pas trop grave, pas trop alarmant. Joueuse et acheteuse compulsive. Pareil pour Catherine II de Russie, addiction au jeu, mais au sexe aussi, puisqu'elle avait mis un protocole carrément de recrutement pour ses nombreux amants. D'abord, il y avait un médecin qui les examinait pour éviter les MST. Et ensuite, des comtesses jouaient le rôle d'essayeuses ou d'éprouveuses pour évaluer donc les capacités physiques des prétendants.
Punaise, le boulot.
Traitement suggéré, thérapie comportementale. Et il y a beaucoup d'autres. Il y a Jésus, il y a Salomon, il y a Charles Quint, il y a Jeanne d'Arc, évidemment. Je vous laisse les découvrir. C'est extrêmement bien conçu, diablement intelligent, très drôle aussi parfois, parce que bon, Patrick Lemoine, il a quand même conscience qu'il est difficile de poser un diagnostic en se basant sur les écrits, sur les témoignages, surtout à plusieurs siècles d'écart. Mais on en apprend beaucoup, je vous dis, sur ces figures de l'histoire, avec cet angle psychologique très particulier qui permet de les aborder d'une façon vraiment différente. Et après avoir lu ça, eh ben on ne les regarde plus de la même façon, nos chefs d'État. Ça fait réfléchir.
Ouais. Est-ce qu'il y a Emmanuel Macron ou Laurent Wauquiez ?
Pas encore.
La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, c'est chez Odile Jacob. Merci Nicolas. On pourrait faire la même chose avec les stars du rock. C'est qui la star du rock, homme ou femme, la plus dingue que vous ayez croisée, ou tous sont-ils dingues, Philippe Manœuvre ?
Ils sont un peu tous dingues. Le plus récent, c'était Pete Doherty. Quand j'étais encore rédacteur-chef de Rock et Folk, une fois, un de mes journalistes arrive à Londres pour l'interviewer, donc tout un voyage, etc. Et au moment où il arrive à l'hôtel, il voit une corde qui descend et Pete Doherty qui sortait de sa chambre au bout d'un drap. Ouais, et, et quand il arrive en bas, il lui dit « Mais je venais te voir !» Il dit « Ah, c'était toi l'interview ? Ah ben, je rentre !» Franchement,
on peut pas faire mieux. Philippe Manœuvre avec nous, Thierry Geffrotin, Vanessa Zaha, Nicolas Carreau. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de la demi-heure culturelle. Quel plaisir.
19h48, votre grand journal du soir touche à sa fin. Allez, on retrouve Philippe Vandel.
Suite et fin de la demi-heure culturelle de ce 18-20, toujours avec Philippe Manœuvre qui sera le maître de cérémonie du plus grand concert de rock du monde. Ce sera le 29 juin au Stade de France. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, puisque tous les billets quasiment sont vendus. Redites le titre.
Rock'n'Mill.
Eh oui, Rock'n'Mill. Et là, Thierry Geffrotin, vous avez choisi de nous parler de Tintin. C'est vrai que ça tombe pile. J'ai envie de dire quoi de neuf, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de nouvel album en vue, vu l'état du dessinateur et de la veuve Hergé.
Exactement.
Surtout.
Et son testament.
Et son testament
d'Hergé qui bloque toute la suite.
Oui, contrairement à Astérix et Obélix, par exemple. Vous avez raison, Philippe, mais j'ai quand même deux bonnes raisons de vous parler du toujours jeune reporter qui fête cette année ses 90 ans. La première raison, c'est la réédition de deux albums sortis en 1953 et 54, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Wow. 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune, évidemment. Réédition en un seul volume chez Casterman, 19,80 euros.
90.
Alors déjà, une remarque, je pensais que ça datait des années 60. C'est dingue la modernité, alors que ça remonte aux années 50.
Ouais, c'est fou.
Et Thierry, vous en avez profité évidemment pour relire ces deux aventures.
Eh oui, alors je vais vous épargner mon émerveillement et les commentaires habituels. Vous savez, Hergé a fait marcher ses héros sur la Lune 15 ans avant Neil Armstrong. Non, ce que j'ai trouvé très très surprenant, c'est la densité des textes. Vous savez, les phylactères, il y a beaucoup, beaucoup à lire. Et je ne vous parle pas des dessins.
Hein. Oui, habituellement, vous écoutez des disques, c'est beaucoup plus reposant. Deuxième raison qui vous amène à nous parler de Tintin.
Eh bien, c'est la sortie mercredi prochain d'une nouvelle revue trimestrielle, Tintin, c'est l'aventure, revue créée par les éditions Prisma Géo et Moulinsart. Le premier numéro est consacré principalement, pas seulement à la conquête spatiale, là aussi, hein, plus de 160 pages, d'une manière très attractive, je dois le dire, de revisiter l'œuvre d'Hergé avec des reportages, des enquêtes, des portraits. Par exemple, le portrait d'Antoine de Maximy, un aventurier à mi-chemin entre Tintin et Tournesol. Une question aussi qui trouve sa réponse, évidemment, dans le magazine. Le film Destination Moon, ou Destination Moon, si vous préférez, sorti aux États-Unis en 1950, a-t-il inspiré Hergé ? Vous apprendrez aussi que le même Hergé a dessiné une véritable expédition. C'était Apollo 12 et c'était pour Paris Match en 1969, un point sur la conquête spatiale en 2019 et même un détour par l'Écosse et la péninsule arabique avec deux articles avec des titres qui font rêver, le tourisme du surnaturel en Écosse et le mirage des sables. J'ajoute que la revue est richement illustrée, des photos et des vignettes, des albums de Tintin évidemment. Et au milieu de la revue, un très beau cadeau, un dépli BD. Autrement dit,
qu'est-ce que c'est ?
Une BD qui se déplie, une aventure originale, imaginée, dessinée par Isler, vous savez, on lui doit la série Sambre, et qui a pour titre « Elle a marché sur la Lune ». Écoutez Isler.
La difficulté était quand même de faire une histoire en 11 pages, ce qui est très peu, et donc arriver à avoir un sujet là-dessus, c'est plus compliqué que de faire un long roman. On est tous descendants d'Hergé, donc il y a le fait de dialoguer avec le maître. Je suis un peu contre les reprises en bande dessinée qui sont serviles. Je trouve qu'il faut justement partir de cette expérience et, comme un bon fils, ne pas ménager le père.
Bernard Isler qui a donc imaginé une aventure pour ce premier numéro de Tintin, c'est l'aventure.
Magazine très complet, on l'a compris. Pour quel prix ?
15,99€ et c'est un trimestriel.
Donc on va dire 16€.
Allez, 16€, vous savez, c'est le marketing ça.
Philippe Manœuvre, vous avez créé Métal Hurlant avec Jean-Pierre Dionnet. C'était de la BD, pas que, mais de la BD. Vous êtes toujours fan de BD ou pas ?
Ah ouais, bien
ah
sûr.
Bon qu'est-ce que vous lisez en ce moment alors ?
Ouais, j'ai lu le Edgar Pierre Jacob fait par Schuiten, qui est sensationnel.
Ah,
Schuiten s'est déchaîné, oui. Moi qui suis un grand fan de Edgar Pierre Jacob, qui adore Blake et Mortimer. Là, quand j'ai lu cette aventure de Schuiten, j'étais bluffé.
Moi, j'ai découvert, je veux dire, jeune ado, j'ai découvert Schuiten dans Métal Hurlant.
Oui,
mais j'étais
Carapace,
déçu.
Oui, sa première BD.
Mais j'étais déçu que ce soit plus de la ligne claire.
Oui.
Pas vous.
Eh ben, moi, je trouve qu'il a respecté quand même l'idée de. C'est d'une grande clarté.
La fidélité
quand même.
Est là quand même. L'esprit.
Le personnage est là. Et puis, c'est du Schuiten aussi. Parce que c'est ça le jeu. Il ne va pas faire du faux Edgar Pierre Jacobs en 2019. À quoi ça rime ? Il fait du Schuiten, mais. Je trouve l'histoire passionnante.
Voilà, j'ai bien compris, c'est moi qui suis réac. Tout à fait autre chose. On va fêter les 500 ans de la Renaissance du côté italien cette fois-ci. Et avec vous, Vanessa Zà, on part à Milan.
À Milan, et oui, on part sur les traces de Leonardo. Donc pas DiCaprio, vous l'avez compris, mais Leonardo da Vinci. Leonardo, parce que c'est simplement comme ça que l'appellent les Milanais.
Ouais.
On n'en dit pas Leonardo da Vinci, mais Leonardo. Quand on parle de lui, c'est l'enfant chéri de la Lombardie, même s'il est né en Toscane. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'il a passé 20 ans chez les ducs de Milan, les Sforza. Et ces années-là, ce sont les plus riches de sa production, grâce à son mécène qui s'appelait Ludovic Sforza et qui était un passionné de musique, de sciences et d'architecture. Et c'est pour ça qu'il a installé Leonard pour travailler dans son château, le château des Sforza. Donc, il faut le visiter, c'est incontournable. Surtout que la magie opère à nouveau cette année avec la réouverture de la plus grande salle, la Sala della Ace. En fait, elle abrite le plus grand trompe-l'œil jamais réalisé à l'époque. Une pergola, une forêt touffue de mûriers. Il y en a une petite vingtaine. Et c'est assez fascinant et tellement bien réalisé qu'on a l'impression que les racines, les ramures et les feuilles continuent de surgir. Et on comprend mieux pourquoi c'était la salle d'apparat donc du duc de Sforza.
Et alors, pour continuer dans les pas de Léonard, qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre ?
Eh bien, l'église Santa Maria delle Grazie, où est conservée son œuvre la plus célèbre, j'ai répété, l'œuvre la plus célèbre après la Joconde, qui est, les amis ?
La Seine.
La Seine, évidemment. Donc, c'était une œuvre incroyable, hein, de modernité, mais elle n'a pas plu au clergé.
C'est
Est-ce
pas
que
vrai.
Vous savez pourquoi ?
Ah non, je savais pas, déjà, je ne savais pas qu'elle n'avait pas plu. Alors,
elle
je peux encore moins
en
savoir
fait,
pourquoi.
Léonard en avait tellement assez marre de se faire harceler par le prieur, qui trouvait que ça allait pas assez vite, et bien qu'il a utilisé son visage pour représenter, à votre avis,
Judas.
Eh ben Judas.
Son visage
voilà.
À lui ou le visage
du prieur.
Ah dis donc, ah bah oui.
Donc voilà. Et donc sachez que pour voir ce Judas, il faut évidemment réserver obligatoirement. On est une vingtaine toutes les 15 minutes à pouvoir faire la visite. Ça se mérite, c'est un trésor. Voilà.
Vous donnez des infos pratiques maintenant pour Milan. Ouais. Où loger, comment y aller?
Déjà, on prend pas l'avion.
Ah.
En fait, on va prendre le TGV jusqu'à Milan. Ouais. C'est vrai que ça prend 7 heures, mais l'un dans l'autre. On y est presque parce que vous allez voir, vous allez vivre quelque chose d'assez unique.
Dans le TGV.
Ouais, le train TGV, exceptionnellement cette année, est complètement habillé, customisé aux couleurs de Léonard. Et dans la voiture bar, vous avez des animations, des conférences. Ses principales œuvres ont été recréées en réalité augmentée. Et il y a même des ateliers pour refaire en maquette certaines des machines qu'il a imaginées.
C'est bah, vachement bien.
En plus, c'est 130 euros l'aller-retour.
Ouais, moi, conférence en français.
Conférence
Paris.
En français. Depuis Paris. Ah. Pour dormir à Milan, allez, le Palazzo della Stelline, en fait, c'est un hôtel. 3 étoiles, c'est 75 euros la nuit, qui se trouve dans un ancien monastère qui date en plus de l'époque de Léonard. Pour un Milan un petit peu plus pittoresque, quand même moins touristique, faut se promener dans le quartier de Brera, qui a un petit côté bohème, avec des ruelles piétonnes, il y a des chineurs, des artistes, et puis surtout des super trattorias pour dîner en terrasse. Et pour vivre un peu à la movida milanaise, le temps que le Rock and Me arrive à Milan un jour, et bien si on veut aller dans des clubs électro, il faut aller dans les Navigli, vous savez, le quartier des canaux qui date du 12e siècle. Puis bon. Si on n'est pas loin, si on a envie d'aller voir l'autre Leonardo, le DiCaprio cette fois-ci, on va sur le lac de Côme à côté de la villa de George Clooney. Ça c'était pour le cadeau.
Merci Vanessa Zah, merci beaucoup Philippe Manœuvre d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous serez le maître de cérémonie pour Rock in 1000, ça sera le 29 juin au Stade de France, le plus grand concert de rock du monde avec 1038 musiciens et musiciennes sur scène. Vous savez déjà comment vous allez vous habiller?
Ben, en noir,
ouais.
Pour changer comme tous les lunettes. Jours depuis, voilà. Je vais garder mes lunettes et mon perfecto et je pense que tout le monde sera très content, oui.
Ça va passer à la télé?
Écoutez, ils sont en négociation avec une chaîne actuellement, il y a une chaîne qui aimerait bien le rediffuser. Ça ne sera pas en direct à la télé pendant le concert, ça sera quelques temps après, donc... voilà.
Vous savez quoi? Vous auriez dû vous mettre d'accord avec 1000 chaînes. Merci beaucoup, Philippe Manœuvre, d'avoir été avec nous. Salut à tous.
Europe 1.
Et dans un instant, sur Europe 1, on va retrouver Europe 1 Sport avec Lionel Rosso. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Philippe.
Quel programme alors?
Le programme de l'Ovalie.
Ah oui.
Le rugby, le Stade top de France, 14. Là aussi le top 14. La finale en effet avec les deux meilleures équipes de la saison régulière. Le Stade Toulousain face à l'ASM Clermont-Auvergne. Toulouse-Clermont, c'est en intégralité. Et puis d'autres petites surprises évidemment, puisqu'on parlera de ballon, de foot, de ballon rond dans un instant.
Pas possible.
Mais oui.
Ah,
Leonardo revient au PSG. J'adore le sport en fait.
Ah moi je suis trop content.
C'est une découverte, je sais.
Et alors De Ligt, est-ce qu'il vient au PSG ou pas? De Ligt, le défenseur hollandais.
Très vraisemblablement.
Formidable. Merci beaucoup Lionel qui dit Toulouse en trois syllabes comme là-bas. Nous on se retrouve demain à 18h avec Marlène.
Ah oui.
Bonne soirée à tous et toutes à l'écoute d'Europe 1.
Salut Philippe.